Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Foot, intégrale Coupe du Monde.
Jordan for Kane. Harry Kane, when England needed a captain.
Holland, oh wonderful. He has nailed it for Norway.
Pierre Dorian.
Une grande nuit de l'after puisqu'il y a deux quarts de finale au programme aujourd'hui. C'est l'after foot intégral Coupe du Monde avec Daniel Riolo et Walid Acharchour. Salut les gars.
Bonsoir les amis.
Salut Pierrot, salut tout le monde.
Belle petite soirée en perspective, 23h.
On a hâte de se plonger.
Norvège-Angleterre.
Très belle soirée.
Tiens d'ailleurs, Norvège-Angleterre, 23h. Argentine-Suisse, 3h du matin. Lequel t'attends le plus, Daniel?
Les deux, monsieur.
Les deux.
Vraiment les deux.
Walid.
Angleterre-Norvège.
Ouais, pour quelle raison?
Parce que ce qui s'est passé avec Haaland contre le Brésil, l'Angleterre m'a emmené dans ce match de dingue contre le Mexique. Je pense que c'est le quart le plus homogène des deux, même si attention à la Suisse, on en parlera après. Mais globalement, on va s'emmener dans cette nuit de dingue. Hein.
Tu vas veiller jusqu'à 3h du matin, enfin jusqu'à 5h.
On travaille toute la nuit, donc ça va.
Donc c'est Norvège-Angleterre, 23h à Miami, au Hard Rock Stadium. Ça sera avec Aurélien Tiercin. Et donc Argentine-Suisse à 3h du matin, Kansas City, l'Arrowhead Stadium. Un match qu'on suivra sur RMC avec Jérôme Sillon. Bien sûr, on va parler des Bleus. L'équipe de France doit-elle avoir peur de l'Espagne? Il en a été question dès la fin du match, dès la qualif de l'Espagne hier face à la Belgique. Et puis nos deux matchs de la nuit, Argentine-Suisse pour les Argentins, nouvelle galère ou formalité. Et puis la Norvège d'Haaland, peut-elle aller encore plus haut? Est-ce qu'ils ont atteint leur max? Est-ce qu'ils peuvent encore faire encore mieux avec un joueur comme Haaland? Il faut se méfier quand même. Hein. On va en parler bien sûr avec vous jusqu'au coup d'envoi 23h de ce Norvège-Angleterre. Mais on démarre donc avec cette demi-finale fantastique sur le papier. C'est France-Espagne, c'est mardi 21h à Arlington. La France doit-elle avoir peur de l'Espagne? On se pose la question comme ça parce que jusqu'ici, les Bleus sont impressionnants. C'est l'équipe la plus impressionnante de cette Coupe du Monde, assez clairement, non, Daniel?
Je vois pas de quoi ils doivent avoir peur, en fait. Que si tu me dis, c'est le match qui sera le plus difficile, l'adversaire qui a le plus de qualité, l'adversaire qui a des références face à eux... oui, très bien, évidemment. Mais je crois pas que d'un point de vue de l'approche psychologique, cette équipe de France, elle ait peur de qui que ce soit. Elle a une telle envie de gagner. Elle a justement, par rapport à cette Espagne, qui reste sur deux victoires assez marquantes contre elle, que ce soit l'Euro ou fameuse Ligue des Nations, là, qu'il y a même un désir de montrer que tout ça, c'est fini. Qu'on va passer l'éponge. Et que, ok, vous jouez super bien, on vous respecte, votre jeu il est formidable, votre technique, tout ça, je pense que les Français en sont parfaitement conscients. Mais nous, on a changé. C'est terminé, on va pas vous attendre, on va pas continuer à vous regarder jouer, on va pas attendre le contre, on va pas... Non, on a changé. Il y a dans cette équipe des cracks, Dembélé, Mbappé, Olise. On est là pour vous faire mal. Donc, non seulement je crois pas qu'il y ait de la peur, il y a ce qui s'appelle le respect et la conscience que l'adversaire a beaucoup de qualité et qu'il est fort, mais je crois même qu'il y a une motivation en surplus. Je crois que maintenant, de toute façon, l'équipe de France, jusque-là, elle a consumé tous les adversaires qui, sur le papier, s'étaient vendus. Le truc bookmaker, je pense que tu n'étais jamais à au-dessus de 1-5 et encore. Hein.
Pour la France en demi, tu veux dire.
Ouais, ouais. Là, aujourd'hui, ça ne va pas être la même. Pour l'approche, les codes et tout. Mais je pense qu'au contraire, c'est là maintenant que leur motivation va monter encore d'un cran. Où ils se disent, maintenant les gars, c'est là. Tous ceux qui vont arriver en face, que ce soit Argentine, Angleterre, parce que je pense que dans l'esprit de tous, c'est un de ces deux pays-là qui sera au bout de l'histoire en face, hein, même si ce sera peut-être pas le cas, mais en tout cas, dans l'esprit du plus grand nombre. Maintenant, on est motivé à bloc. Espagne, pas Espagne, machin. Il n'y a pas de peur. Il y a juste, encore une fois, je le dis, la lucidité en face, on a une très bonne équipe.
Peur, peur. Sans parler de peur,
immense respect.
Parce oui, on peut se demander quand même est-ce que l'Espagne est au niveau de la France aussi favorite.
Oui,
est-ce que
l'Espagne pour moi, ça reste du tout souche parce que en fait aujourd'hui l'Espagne, Yamal l'a répété, ils sont sur deux victoires de suite contre la France en Ligue des Nations et au dernier Euro. Moi, je vois les deux meilleures équipes quand même du tournoi, même si l'Angleterre a aussi fait des belles choses, mais dans deux conceptions de football très différentes et surtout dans des programmes, dans des parcours différents. Pour moi, la France a massacré tous ses adversaires, mais peut-être avec des équipes plus faibles que l'Espagne. Et l'Espagne a contrôlé tous ses adversaires en étant bien supérieure, avec des adversaires plus coriace pour moi sur le papier
que ce qu'a affronté la France.
Autriche, Portugal et Belgique.
Oui, mais sûr, par rapport à attention, le Maroc, on les a fait passer pour une équipe entre guillemets facile. Non, mais ça faisait partie des gros outsiders de la compétition.
Le Maroc, contre les équipes que l'Espagne a battues, je ne sais pas si ça passait. Hein, oui, attention. Bon,
enfin, surtout que moi, je parle des trois. Autriche, Portugal et Belgique, par rapport à tout ce que ça.
Que la France a joué,
ça comporte. Pour moi, l'Espagne a eu un parcours plus compliqué. La France a joué la Suède, le Paraguay et le Maroc. Par contre, sur ces trois matchs-là, ils ont montré, et depuis le début du tournoi, une vraie supériorité, puis un côté éclatant, fracassant, qui fait que aujourd'hui, on les met favoris.
Mais je fais juste une petite aparté là-dessus parce que j'ai pas trouvé la Belgique très menaçante. C'est-à-dire, ils ont fait leur match et ils ont fait le meilleur match qu'ils pouvaient faire contre l'Espagne. Mais c'était implacable.
Non,
mais
l'Espagne te réduit à rien.
Ce résultat était
L'Espagne envoie toujours l'adversaire dans les cordes en lui disant nous on va avoir le ballon, repoussez, mettez-vous le cul dans la surface et on voit ce que vous êtes capable de faire. Sauf que si on était à les fameuses conférences de presse des boxeurs là, je pense que les Espagnols et les Français se regarderaient et diraient ok, déjà nous on va pas se mettre dans les cordes, on va essayer de vous jouer, et ça c'est nouveau, on le faisait pas avant. Mmh. Et surtout, excuse-moi, il y a 2 ans, il y a 4 ans, il y a machin, l'équipe, elle était plus forte que maintenant, non ? Il me semble qu'il manque sur le plan offensif un ou deux atouts. Alors que nous, t'as vu comment on a changé ?
Nous, on est plus fort.
S'il doit y avoir un doute quelque part sur le changement, ce que la France a en plus, ce doute, il est dans la tête des Espagnols. Il va pas être dans la tête des Français. Les Espagnols ont beau rester sur 2 victoires, c'était 2 victoires face à un adversaire un peu différent quand même. Là, les Français, ils envoient le message.
Mais puis surtout dans le rapport de force sur les 2 derniers matchs, il faut le dire, l'Espagne avait un prisme qui était très très différent. Ils avaient une dalle, une détermination. Moi, je sens que l'équipe de France est en mission sur cette compétition, et surtout sur la défaite en Ligue des Nations et sur la défaite à l'Euro, on avait une attaque qui était décimé. Faut rappeler qu'à l'Euro, on jouait avec Colomoigny en numéro 9 et avec un Mbappé qui était masqué. Bon, là, aujourd'hui, je pense qu'il est plus en appel masqué. Le téléphone, il répond très, très bien. Et de l'autre côté, sur la Ligue des Nations, on avait l'attaque à 4, Doué, Olise, Mbappé et Dembélé. Par contre, on avait une défense où on jouait avec Konaté, Lenglet, Kalulu et Théo Hernandez.
Aucun des quatre
ne seront là sur le match, sur la demi-finale. Donc, et contrairement à l'Espagne, où l'Espagne, bon, Pedri, on sait pas s'il va être titulaire ou non, il est pas en grande forme. On a un Nico Williams, on sait pas s'il sera là, il y a des gros problèmes en attaque.
Fabien Ruiz a fait un très bon match contre la Belgique.
Au global, mais. On a Lamine Yamal qui va peut-être faire une Zidane 98 et se réveiller demi-finale, finale, mais pour l'instant, son tournoi, même s'il a fait un bon match hier, n'est pas à la hauteur de ce qu'il faisait. En tout cas, par rapport à ce qu'on attend, Lamine Yamal, il n'est pas au niveau qu'on a pu le voir avec le Barça récemment ou avec l'Espagne sur le dernier tournoi. Donc en fait, quand tu vois le rapport de force, parce que dans ces matchs-là, bien évidemment qu'il y a l'aspect collectif, mais il y a aussi la force individuelle qui peut te faire changer la rencontre à n'importe quel moment, tu as le sentiment que l'équipe de France est en position de force. Mais il faut respecter l'Espagne, parce que moi, je me suis posé la question toute la journée, je me suis dit, attention Walid, parce que là, tu es emballé par ce que propose l'équipe de France, parce que on a peut-être un prisme.
Mais on l'a pas vu jouer véritablement ballon et bousculer.
Voilà, c'est pour ça qu'en fait, il faut avoir un respect pour l'Espagne, parce que.
Est-ce qu'ils vont nous prendre le ballon d'ailleurs?
Ce sera moins caricatural que ce qu'on a vu sur les derniers matchs, mais pour moi, ils vont l'avoir, parce que c'est dans leur ADN. Mais c'est pas parce qu'en fait, en 2024. Par rapport à 2024, on a une équipe d'Espagne qui est moins impressionnante, qui est moins rouleau compresseur, qu'en fait, cette Espagne-là doit être dévalorisée. De l'autre côté, la même chose. J'ai peur qu'en fait, le prisme du côté de l'équipe de France, comme on est tellement aux antipodes de ce qu'on a proposé en 2024, où on rappelle que Didier Deschamps nous demandait de changer de chaîne si on n'était pas content, qu'en fait, on peut aussi la voir peut-être un peu trop belle. Mais là, de toute façon, on va voir l'explication, mais on a ce sentiment-là. Et surtout, juste pour terminer, moi, quoi qu'il arrive, je te dis sincèrement, Pierrot, on a tellement critiqué les processus de l'équipe de France pendant les compétitions pour arriver à ces étages-là, que moi, voir l'équipe de France arriver avec ce bilan, arriver avec cet esthétisme.
La Coupe du Monde a réussi.
J'irai pas là-dessus, mais moi, je parle là de mon, dans mon livre.
Toi qui fais.
De mon opinion, d'y aller avec 4 attaquants contre l'Espagne, quoi qu'il arrive, je ne serai pas aussi critique qu'en 2024 ou que sur les dernières années. Parce que, tu vois, l'explication, on va y aller, tu parlais du combat de boxe, on va aller sur ce combat de boxe, peut-être qu'on tombera
sur plus fort, mais on a donné pendant trois semaines du kiff, du rêve, du football. Ouais. Et après, on va voir l'explication.
Tout ce que Deschamps ne voulait pas proposer.
Et tout ce qu'on voulait, nous.
On peut quand même.
Après, on ira retrouver Jean-Louis Tourque à l'entraînement des Bleus.
Les deux matchs dont on parle énormément. Et c'était des matchs très bizarres, quand même.
Vraiment très bizarres,
les deux. Ouais. Oui. C'est des matchs bizarres parce que c'est des matchs où.
Très différents.
Dans le jeu, évidemment que tu as tout subi. Et que, en subissant et en montrant aussi peu, à chaque fois, je trouve que les scénars ont été curieux.
Moins le deuxième à subir.
Non, mais parce la demi-finale,
tu te fais éclater en transition sur cette
match. Je trouve aussi que la demi-finale de l'Euro, elle est implacable. Ah, oui. Il n'y a aucun moment où tu crois vraiment que tu vas passer. Hein.
Néanmoins, tu arrives à marquer en premier. Et là, on était comme ça. On disait, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Deschamps va refaire un coup. Les chats à Deschamps. Les gars, parce qu'à l'époque, on commentait les matchs comme ça. Tellement il n'y avait pas de ballon.
Ouais.
Colomani, but. Qu'est-ce qui se passe? Après, le premier but espagnol, ok. Le deuxième, c'est un vrai exploit individuel de Lamine Yamal. T'as la fameuse occasion de Mbappé à la fin et tout. T'es dans le jeu à des années-lumière, pas trop dans les phases concrètes.
Il y a le son quand même. Il y a le son footballistique. Football, et t'as l'entrée de Barcola sur les 10 dernières minutes football. Avec la grosse occasion d'Mbappé où t'as le sentiment, donc, tu sors du match, tu dis,
oui, mais ça aurait été un braquage.
Oui, bien évidemment.
Mais tu pouvais l'envisager.
Mais tu dis, l'Espagne, quand tu sors du match, tu dis, purée, l'Espagne, avec tout ce qu'ils ont produit, ils ont pas liquidé le match.
Voilà.
Et là, c'est le contraire sur le deuxième match.
Et je continue sur le deuxième. Ou alors là, moi, je me souviens très bien.
Ça, c'est Ligue des Nations, 5-4.
Je pense que j'étais en week-end, je ne bossais pas.
Après avoir été mené 5-1.
Et il y a 5-1 à la 67e.
C'est sévère.
Et j'étais là et tout, je regardais. Et j'ai dit, sans déconner, heureusement que je ne suis pas à l'after ce soir, je pense que ça aurait été au Karcher. Mais c'était un massacre complet. Mais complet. C'était une boucherie de football. Et derrière, il y a eu cette espèce de remontée complètement dingue, qui n'avait aucun sens, jusqu'à 5-4.
Et on s'est dit, ce match n'avait aucun sens, de toute façon. Hein. Je pense pas qu'il soit une vraie référence.
C'est à ça.
Walid t'a rappelé la compo tout à l'heure.
C'est un peu à ça que je voulais en venir. Ça n'avait pas beaucoup de sens. Mmh. Et quelque part, même le premier, il avait un sens espagnol. Mais il a montré que les Français, parfois, parce qu'ils ont des individualités, pouvaient faire des choses. Et là, on se retrouve avec ce fameux troisième match où là, en termes d'individualité, on a upgradé à mort. L'Espagne a un peu baissé parce que le Nico Williams de l'Euro n'est plus là. C'est pour ça que le rapport de force depuis hier soir, je le fais pencher à 55-45.
Moi, sur le 5-4, je suis moins d'accord parce que je trouve que sur les 20 premières minutes, pour le coup, c'est l'attaque à 4 de l'équipe de France, celle qu'on va voir. Mm-hmm. Parce que tout le monde était là. Hein, parce qu'on sortait de la première Ligue des Champions du Paris Saint-Germain avec Dembélé et Doué sur les côtés. Et je trouvais qu'on avait beaucoup plus d'ambition. C'est la première fois qu'on a plus d'ambition face à l'Espagne, mais on se fait trouer en transition. Et ça peut donner peut-être des idées avec une meilleure défense sur ce match-là.
21h13, l'after foot intégral Coupe du Monde avec deux matchs de. Je vous rappelle, hein, si vous nous rejoignez cette nuit, c'est 23h Norvège-Angleterre et 3h du matin Argentine-Suisse. On part direct à Boston retrouver Jean-Louis Tour. Salut Jean-Louis.
Salut Pierrot, salut tout le monde.
Jean-Louis, à l'entraînement des Bleus, a priori, mais il n'y a aucune ambiance derrière toi. Comment est-ce possible? On a l'impression que tu es dans une cabine à huis clos.
Non, je suis dehors. c'est sous mes yeux là, mais on va pas les déranger.
Il traîne autour du salon de coiffeur. Je demande à quel moment il va vraiment pousser la porte pour aller se faire la nouvelle coupe dont il rêve.
Ah, c'est fait, Daniel. C'est fait.
Ça y est, tu l'as fait.
C'est important.
Il a enfin, voilà, il a lâché l'oseille pour aller faire la coupe.
Mbappé et Tchouaméni sont à l'entraînement, je suppose.
Exactement. C'est l'info principale. Ils sont bien là. Là, d'ailleurs, il y a le groupe des titulaires qui fait des tours de terrain qui passe juste devant moi. Là, t'as dû entendre un bruit de ballon puisque Kylian Mbappé vient de tirer dans le ballon.
En pleine direction.
Donc quelle direction là, vers le staff?
Laisse tomber, continue, enchaîne.
J'avais pas entendu, pardon. Donc ils sont bien là, hein, puisque Mbappé, on l'a quitté sur cette sortie touchée à la cheville, donc lors du match face au Maroc. Donc il s'entraîne normalement. Aurélien Tchouaméni aussi, qui avait repris donc la veille du match contre le Maroc avec une séance collective après ses douleurs aux adducteurs, il est bien là. Il y a deux groupes en fait. Il y a le groupe des titulaires et celui des remplaçants qui font deux travails différents actuellement. Et pour l'instant, oui, c'est ça donc l'info principale.
Juste, est-ce que tu as déjà des petits échos? Est-ce que vous savez ce que les Bleus disent de cette demi-finale face à l'Espagne? Comment ils l'envisagent? Comment ils en parlent?
Bah écoute, ils ont envie de montrer le vrai niveau de l'équipe de France, en gros ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire que ce qui s'est passé en 2024, ils ont envie de montrer qu'avec tout le monde à 100% et avec un plan de jeu différent, et bah ils sont au-dessus des Espagnols. Il faut voir si dans les discours ils tiendront ces mots-là directement ou au contraire ils vont rester prudents pour pas donner de phrases pour motiver les Espagnols. Je pense que ce sera un discours de Deschamps avant cette rencontre, mais au fond d'eux, ils veulent clairement la revanche et montrer montrer le vrai visage de l'équipe de France.
En parlant de motivation, Yamal a lancé un petit peu le choc.
Oui, moi, tu veux qu'on l'écoute?
Oui, vas-y.
Vas-y, Lamine Yamal, donc ça c'était après la qualif de l'Espagne en demi-finale face à la Belgique, je le précise parce qu'il avait déjà plus ou moins parlé de ça après un match de poule donc qui date d'il y a quelques jours déjà, mais ça c'est bien hier soir après la qualif contre la Belgique.
Depuis le début de la Coupe du Monde, tout le monde attendait ce match avec impatience. Pour moi, nous sommes les deux meilleures équipes de la compétition. Mais attention, nous n'avons aucune crainte. Je pense que si une équipe peut jouer en toute confiance contre la France, c'est bien nous.
Voilà, c'est bien nous.
Et moi, j'aime bien ça parce que ça fait.
Mais il dit une équipe qui peut jouer en pleine confiance. Ouais. C'est pas des propos ultra
violents. Non, c'est pas de la provoque.
Comme c'est relayé sur les réseaux, la façon dont c'est relayé sur les réseaux.
La traduction, elle est suspecte.
Faut que limite, faut qu'il chie dessus.
En fait, a lu beaucoup, c'est s'il y a une équipe dont la France doit avoir peur, c'est bien nous.
Il y a une déclaration en disant ils peuvent faire trois finales de suite, mais nous, si on les bat, ça peut faire trois fois de suite aussi. Et globalement, Yamal en avait parlé aussi en début de compétition, quand on avait dit oui, l'Espagne est un peu empruntée et la France est extraordinaire, il avait temporisé, mais moi j'aime bien, ça fait le sel de ces rencontres, ça participe à cette excitation. Et je me rappelle qu'en 2024 Adrien Rabiot avait aussi dit en conférence de presse qu'en gros il n'allait pas avoir de soucis, ça avait motivé un petit peu l'Espagne, et Jean-Louis a raison d'insister là-dessus. J'ai envie de voir le comportement demain ou après-demain en conférence de presse de l'équipe de France, voir comment ils vont
faire profil bas ou
est-ce qu'ils vont répondre sur le terrain ou avant le match. Ça va être intéressant aussi de voir la gestion de l'avant-match.
Et ce qui est important, Jean-Louis, aussi, c'est que l'histoire de cette équipe, dont Walid parlait tout à l'heure en disant que quoi qu'il arrive, elle aura montré quelque chose qu'on attendait et qui l'a satisfait, et bien toute cette histoire-là, elle est partie de la demi-finale de l'Euro, France-Espagne 2024, qui a lancé la révolution à la demande des joueurs, notamment de Kylian Mbappé. Mais alors, globalement, il y a une prise de conscience du groupe que le jeu un peu fermé et restrictif à la Deschamps, c'était terminé si on voulait gagner de nouveau.
Exactement, et ça a été la grande qualité de Didier Deschamps de s'ouvrir à son groupe et d'écouter ce qu'ils avaient à dire après justement donc ce match-là. Et ce serait une façon de finir le chapitre qui a commencé donc sur cette demi-finale de l'Euro et qui fait aussi que il se passe vraiment quelque chose autour de cette équipe de France avec ce jeu offensif. Qui en plus de ça, moi je trouve que l'autre nouveauté, c'est que Deschamps arrive sur une grande compète en ayant trié quelque chose pendant une saison entière avant. Que ça, auparavant, on n'avait pas le droit à ça. Hein. On avait droit à une équipe qui se découvrait pendant la compétition et on allait au bout, et exactement, et on mettait à la poubelle les deux ans auparavant. Donc ça, c'est la différence. Et maintenant, c'est pour ça que moi j'espère bien qu'on va arriver avec les quatre attaquants contre l'Espagne, même si il y a un moment qui est difficile.
Je pense pas.
En tout cas, ça m'étonnerait beaucoup vu la cohérence qui est autour des choix et des champs depuis le début.
Ça aurait pu changer si on a vu un problème défensif, un déséquilibre, quelque chose. Mais
rien n'a changé.
Après, la seule question, c'est qu'on est
dans la bagnole, t'es sur l'autoroute, il y a c'est même pas, tu sais, les bouchons du départ en vacances, c'est tranquille.
Tu vas voir que même Daniel va regretter Didier Deschamps à la fin. Si on gagne comme ça, on jouera avec 4 attaquants.
C'est une bonne question, ça.
Mais en fait, je comprends pas ce que vous comprenez pas.
C'est une vanne.
Parce que, en fait, quoi qu'il en soit, 14 ans, c'est super long.
Oui. T'as raison, le cycle est fini.
Mais en poste si longtemps.
Non, mais ça, il n'y a pas de règle.
Mais t'as pas envie de voir autre chose.
Ouais, mais là, on voit autre chose.
Mais je te parle pas de forcément de jeu, de personne.
Ah oui, changer d'air, quoi.
Il y a pas une privatisation de l'équipe de France. C'est déjà énorme. Il y en a pas des pays.
Il y a Joachim Löw qui est resté très longtemps. Il y en a quelques-uns. Joachim Löw qui est resté très longtemps.
Il a déjà fait mieux, là.
Ça peut arriver. Si tu veux, il y a pas de règle. Mais je comprends qu'il l'ait gardé vu les résultats.
Non, mais là, on voit une logique. C'est que quand c'est très bien et quand on est très content de ce qui se passe en équipe de France, on le dit. Après, et peut-être que c'est aussi parce que c'est la fin d'Didier Deschamps que ça se passe comme ça.
Alors, ça, c'est une vraie question.
Parce que les joueurs ont pris un peu les choses en main, notamment Kylian Mbappé.
Alors, ça, c'est une vraie question.
Avec Dembélé, les deux potes qui ont commencé à dire on va peut-être pouvoir jouer autrement, avec Olise qui est tombé du ciel.
Ouais, mais
il
c'est aussi.
Passé deux, trois trucs,
attends,
mine de
attends,
rien.
Tu peux avoir toi, aussi
moi,
une autre.
Bien,
une
le
autre...
grand rassembleur, le mec qui sait unir les pièces du puzzle, le management hors pair, tout ça, il a toujours fait.
Sur Deschamps,
en fait,
quoi.
Il a toujours fait. Il a toujours été un manager hors pair pour savoir construire la vie de groupe, les mecs qui s'entendent bien au baby foot, ceux qui mangent les mêmes desserts. Ça, il n'y a pas de problème.
Les flambises.
Ça, il n'y a pas de problème. Il a toujours su faire ça. Sauf que le jeu, il n'avait jamais voulu changer. Et des bons joueurs, il en avait.
Non, mais après,
en 2002, il en avait des très bons joueurs.
Une autre théorie.
Avec le réservoir français, tu aurais toujours pu jouer autrement. Moi, je te dis que là, les joueurs se sont dit, si on continue comme ça, soit on va perdre en demi, soit on va perdre
en finale. J'ai quelque chose à te proposer là.
Il aurait pu changer.
Il aurait pu changer. Il a peut-être changé pour une autre raison, c'est qu'il a ces attaquants-là qui lui offrent de l'équilibre. C'est-à-dire qu'il a peut-être juste constaté qu'il pouvait le faire parce que les mecs sont impliqués dans un équilibre défensif, ce qui n'est pas le cas de tous les attaquants du monde, tout simplement.
Les attaquants ont dit, c'est bon, on est tous ensemble, on va tous y aller, on va tous courir. Ça s'appelle un petit dialogue de 5 minutes.
C'est un deal gagnant-gagnant.
Faites-nous confiance.
Vous voulez jouer, c'est rapide, c'est deux minutes. Vous voulez jouer les 4, mais quand on regarde les stats.
Les stats
de kilomètres parcourus, Olise, il a 12 bornes par match.
On court le plus mal
qu'il jouait énormément. C'est pas qu'un numéro 10 qui joue dans les pieds et qui fait rien pour l'équipe. Moi, j'ai vu sur le match contre le Maroc, parce qu'on a dit changement tactique de la part de Wabi, comment on va faire au milieu de terrain. Regardez le comportement de Dembélé, de Désiré Doué à la perte. Ils sont très centrales, ils reviennent de manière axiale. Et finalement, ce fameux 4-3-3, 4-2-3-1, moi je pense que Doué joue contre le Maroc et il va jouer contre l'Espagne parce que ça va être un milieu de terrain supplémentaire. Mm-hmm. C'est un mec qui va fermer. Exactement. Et qui va aider, je pense, moi, l'équipe de France à être beaucoup plus équilibrée. Et après,
à
la récupération, il a la capacité, parce qu'athlétiquement, c'est monstrueux. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, que ce soit Olise, Dembélé et Désiré Doué, ce sont des joueurs totaux. Ce sont des joueurs qui sont capables, avec et sans le ballon, d'aider l'équipe de France. Et donc là, il y a un compromis en disant, bon les gars, vous voulez qu'on y aille comme ça, vous voulez vous faire plaisir et faire plaisir aux gens, mais par contre moi j'ai besoin de cet équilibre. Ouais. et c'est ce qui se passe.
Donc vous vous engagez à aller à la bagarre.
Et quand
tu as
2 minutes de terrain comme Rabiot et Koné qui sont à ce niveau-là actuellement, eh ben ça fait des grandes choses.
Et Jean-Louis, Walid dit qu'il voit Doué démarrer contre l'Espagne en demi-finale. Est-ce qu'on commence déjà à avoir des infos de ce point de vue-là sur la compo?
Non, ça là-dessus, on n'en a pas encore, puisque c'est la première fois qu'on les voit, c'est la première fois qu'ils travaillent quelque chose, et
ça me semblera
tout à fait normal
d'ici
quelques secondes.
Barcola en sortie
donc
de
ça va être, ça va être une vraie question. Et sur les, et sur la question de la compo, juste un petit élément là, Upamecano et Saliba sont pas sortis s'entraîner. Donc, sans doute un programme individualisé pour eux, peut-être un peu de repos, c'est pas la première fois que ça arrive avec le dos de Saliba. Alors, notamment,
Saliba, on
va tirer la sonnette d'alarme, mais en tout cas, ils sont pas là.
Non, mais Saliba,
ils sont pas là.
Saliba, une bonne pensée pour les supporters d'Arsenal, parce que je pense que le début de saison,
ouais, ça va être compliqué. Saliba, on est d'accord, Jean-Louis, qu'il est géré depuis le début de la compétition, qu'il n'est pas complètement débarrassé de ses problèmes de dos.
Oui, exactement. Il l'a dit de façon très clairement. Je suis pas à 100%, mais comme a répondu Didier Deschamps, s'il est à 95% de cette façon-là à la Coupe du Monde, comme il fait depuis le début, ça devrait aller normalement. Donc ouais. Il est géré. Il y a un protocole spécial autour de lui, autour de ses douleurs au dos, mais ça l'empêche pas d'être titulaire et de sortir des gros matchs.
Et donc en partant sur ce 4-2-3-1,
que ce soit lui ou pas Mécano, il risque quand même d'y avoir beaucoup plus de taf dans le prochain match.
Ah oui, ça c'est sûr.
En termes de travail, et surtout on va plus les voir.
Mais si on a moins le ballon, est-ce que le profil de...
Rappelons quand même que Maignan, ça m'échappe peut-être, mais il a fait un arrêt.
Oui, il a fait
un arrêt contre le Maroc à la 85e.
Oui.
Donc le short, il a sali.
Et contre la Suède, non, fin de match.
Il a rendu l'équipement.
Il a arrêté un pénalty quand même.
Il n'y avait pas une machine à laver.
Il a arrêté un pénalty contre la Norvège.
Oui.
Ouais. Et contre le Sénégal, il avait été 4.
Pour la confiance, en tout cas, ça compte.
Oui, même si c'était un
match. Mais sur les 3 matchs à élimination directe, effectivement, on aurait pu mettre n'importe quel gardien.
Je pense que Jean-Louis fait le même match.
Absolument.
Sur la France, on a eu là.
Merci Walid.
Jean-Louis, c'est un bon gardien.
Surtout contre le Paraguay.
La France gagne, par
exemple. Très, très bon gars.
Respecte Jean-Louis quand même.
Non,
je vais le défendre.
On dit qu'il pourrait jouer en bleu.
Ah, mais c'est ironique. Vous êtes ironique, je sens.
Non, mais il n'y a pas un tir cadré. J'aurais pu jouer, oui.
Exactement. Il n'y a pas de tir cadré.
Et juste pour finir sur Doué et Barcola, avec une équipe qui aura peut-être plus le ballon, on va avoir des contres. Et est-ce que ce n'est pas intéressant peut-être de songer à Barcola?
Pour moi, il faut une gâchette Barcola en sortie de banc pour le 12e homme.
En sortie de banc, pas attitude.
T'as de quoi faire pour les balles de contre-attaque avec ce qu'il y a.
Moi, je pense que Doué peut être très important au milieu de terrain dans la densité. Et juste pour terminer sur ce match-là, pour moi c'est PSG Bayern.
Ah, allez,
pour moi c'est le match.
Mais l'Espagne, c'est pas une équipe qui ouvre comme ça.
C'est le match de Fred Hermel. Je veux mon match TikTok.
Mais l'Espagne n'ouvre pas comme le Bayern, quand même.
Pas autant, mais je pense.
Le match aller, tu veux dire?
Oui, le match aller. Je pense qu'on
tient. Tu penses vraiment que le match peut prendre cette
main? Attention,
ils ont pris un but.
On en a eu deux depuis le début.
Pas avec l'élimination directe, Walid.
Du moins, en Coupe du Monde, c'est rare.
Ça va crisper tout le monde, je pense, tu vois.
Mais pour moi, on a eu la Ligue des Nations entre France-Espagne le 5-4. On a eu le PSG Bayern le 5-4. Je pense que c'est la partie 3, c'est demain. C'est jeudi. Je pense qu'on a un match.
Mais moi, j'y crois pas du tout.
Et moi, je pense.
C'est mardi le match.
Et moi, je pense
que. Peut-être que lundi, vers un autre match, je penserai que c'est ça.
Ouais, je serais France Espagne Euro 2000 avec le coup franc de Zidane. Mais je pense que ce match, s'il y a un match Bundesliga, un match ping-pong, l'équipe de France ira en finale.
Ah ouais.
Je pense que le jeu de l'équipe de France serait d'enflammer ce match-là.
Juste pour finir, Jean-Louis, t'es à l'entraînement, c'est quoi le programme exactement de la séance et des bleus ensuite?
Alors en ce moment il y a un taureau, figure-toi, avec donc toujours l'équipe des remplaçants, et de l'autre côté les titulaires finissent leur travail athlétique, je pense une sorte de décrassage deux jours après. Là ils sont tranquilles, ouais, ils font des petits allers-retours. C'est l'échauffement du Média FC en gros là, Pierrot, ce que font les Bleus, les titulaires en tout cas.
Quand tu racontes tes journées à toi, hein, plutôt que cet entraînement qui a pas l'air passionnant.
Oui, raconte-nous le coiffeur. Ah, du coup,
le taureau, c'est pas mal.
Plutôt qu'un taureau en remplaçant, on veut savoir ton coiffeur.
Quel soin tu as fait chez le coiffeur, ça va nous intéresser beaucoup.
Non, mais est-ce que t'as fait un dégradé espagnol surtout, c'est ça qu'on veut savoir.
Non mais t'as vraiment fait la coupe Lounet comme c'était prévu.
Jean-Louis va revenir avec une nuque et un dégradé espagnol, ça va être
fantastique. Il voulait faire la coupe Georges Clooney, fait très longtemps.
J'ai résisté à ça pendant 2 ans à Madrid, donc c'était bon. Non mais alors effectivement Daniel, je suis entré et j'ai évidemment avec mon anglais catastrophique, j'ai pas réussi à me faire comprendre, donc j'ai montré la photo de George Clooney et donc là elle a rigolé et elle
a dit George Clooney.
Non, elle m'a dit ça va pas être possible. Chacun son implantation ou chacun ses cheveux. Je vais faire à ma façon.
Bon, okay,
c'était que ça. Sinon, c'était bon.
Et pour revenir sérieux, 2 minutes quand même. J'ai oublié pas une question puisque vous étiez plus sérieux.
C'est pas sérieux.
Non, c'est la mise en place tactique. Enfin, l'entraînement important avant la demi. C'est quand ça,
parce qu'en fait, il regarde pas. Il m'étonne depuis tout à l'heure.
Non, passe pas sur ce qui voilà. Le moment où on va vraiment préparer et entrer dans le match côté bleu, c'est quoi? C'est demain? C'est après-demain?
Écoute, je pense que demain matin déjà, avec l'entraînement qui est prévu avant le départ à Dallas, ça peut être important.
Après,
toutes nos forces seront mobilisées pour voir l'entraînement de demain surtout, pas forcément celui d'aujourd'hui. Et après, il y en aura peut-être à Dallas en veille de match. Ouais. Deschamps a fait des mises en place en veille de match ces derniers temps. Demain.
Ton avion, c'est demain?
Ouais, c'est demain.
Très bien. Bon voyage, mon vieux.
Merci beaucoup, Jean-Louis. Dans un instant, l'Argentine. Nouvelle galère ou formalité face à la Suisse. Et puis, la vie de Walid. Le bilan des équipes africaines qui t'a déçu. On en parle dans un instant. On vous attend au 32-16, bien entendu. C'est l'After Intégrale Coupe du Monde. Et on est ensemble jusqu'au coup d'envoi, bien sûr, de ce match à 23h entre la Norvège et l'Angleterre. À tout de suite.
RMC, l'Afterfoot, Intégrale Coupe du Monde.
Pierre Dorian.
21h31 sur RMC, l'Afterfoot Intégrale Coupe du Monde avec encore une très belle nuit de l'After. Norvège-Angleterre, 23h. Argentine-Suisse, 3h du matin à Kansas City, à l'Arrowhead Stadium. Je sais pas, moi, ça me fait un peu rêver Kansas City. J'ai aucune idée de ce à quoi ressemble.
Kansas City, ça fait rêver.
Ça te fait pas rêver, toi? Mais moi, ça me chatouille un peu.
Le triplé de Léo Messi contre l'Algérie. Donc.
Non, ouais, mais le mec, il pense qu'au foot, mais c'est dramatique. Non, mais.
Kansas City, pour moi, c'est un western. Déjà.
Non, mais gros.
C'est un mec sur un cheval.
Kansas City, je sais pas, moi, c'est. Bon, le Kansas, je sais pas, c'est un peu exotique.
C'est un mec sur un cheval.
On voit Kansas, c'est le.
Et il sort un paquet de Marlboro.
Ou alors,
il a
pu me dire, c'est le Thunder de KC avec.
Pour moi,
avec Shea.
Kansas, c'est les deux défenseurs
en NBA,
de l'Angleterre, moi, Kansas.
Ah ouais, le mec, il a que le foot. Donc, j'ai capté, c'est 100% foot en intraveineuse à 24.
Tout sauf ballon.
Alors, sur place, c'est Jérôme Sillon, en direct de Kansas City, en centre-ville, avec les supporters suisses.
Comment c'est le Kansas?
Eh oui, salut les garçons. Bah, alors déjà, avant de faire parler les supporters suisses, Kansas City, c'est génial. C'est le Midwest, c'est en plein milieu des États-Unis, c'est la capitale du barbecue. C'est l'équipe des Chiefs, évidemment, de Patrick Mahomes, l'un des meilleurs quarterbacks de la ligue. 3 Super Bowls depuis 2019. Les gens sont adorables. Ils sont dingues de soccer. Pour tout vous dire, hier soir, il y avait le match
l'équipe féminine professionnelle.
Mais
c'est
oui,
oui c'est
je vous invite
vrai.
À lire mon excellent papier dans la tribune dimanche,
la compétition,
dimanche dernier. Et ils sont tellement dingues de soccer qu'ils regardaient dans les pubs hier soir le match du Current, l'équipe féminine, donc professionnelle, qui a son propre stade ici. C'est la première équipe pro féminine qui a construit son propre stade. Je ne sais pas si vous vous rendez compte.
Oui, c'est la ville.
Donc ils sont vraiment dingues de soccer, les gens sont adorables. Et franchement, c'est la ville de la Coupe du Monde. Et c'est peut-être le plus beau stade.
On passe à autre chose.
Capitale du barbecue, c'est génial quand même, la culture ricaine. C'est fou, Jérôme, en général,
est-ce que c'est la viande qui est avec la sauce dessus, là, un peu trop grillée?
C'est les ribs, non?
Ouais, mais avec.
Alors il y a de tout. Il y a les ribs, il y a les. La spécialité ici, c'est les burnt ends, c'est-à-dire ce sont des petits morceaux de bœuf que tu fais d'abord cuire et ensuite que tu refais sauter une dernière fois. Ah. pour qu'il soit encore un petit peu plus croustillant par-dessus.
Ça y est, j'ai capté. Comment on parlait d'autre chose que de foot avec Walid, il faut lui parler barbecue, en fait.
C'est quasi. Ah,
il n'y a pas de barbecue. Jérôme, en général, quand l'Argentine joue dans une ville, les supporters envahissent la ville. Et franchement, si c'est pas les meilleurs du monde, c'est pas loin. Et toi, tu as trouvé des supporters suisses en masse quand même.
Exactement, alors c'est les meilleurs du monde les Argentins, je pense qu'il n'y a pas match, ils seront encore sans doute 40 000 à 50 000 dans le stade ce soir.
Ça, c'est complètement fou,
c'est une folie absolue.
Toutes les images qu'on voit
sont folles. Et en revanche, les Suisses se mobilisent. Il y a une communauté locale ici. Ils ont joué avec des cors des Alpes. Vous savez, ces immenses instruments de musique là. Ils ont joué hier soir. Ils vont encore jouer aujourd'hui. Bon, ils sont pas là parce qu'ils se sont beaucoup donnés. Mais j'ai quand même Alexandre et Lucas qui sont à côté de moi. Bon, les garçons, franchement, est-ce que c'est difficile d'écouter avec tous ces supporters argentins autour de vous?
Mais écoutez, on est peut-être 10% de Suisses. Le reste, c'est que des Argentins. On est peut-être 300, 400 supporters suisses. C'est vrai que c'est compliqué, mais on est là pour supporter notre équipe.
Lucas, est-ce que tu penses que vous avez une chance de vous qualifier ce soir? C'est le premier quart de finale de la Suisse, on le rappelle, depuis 1954, et vous n'êtes jamais allé dans le dernier carré.
Oui, bien sûr, ça va être dur, bien sûr, mais on a une chance. On sait qu'on a déjà gagné contre les équipes grandes, mais ça va être dur. Mais si tu es le underdog, tu peux pas vraiment oublier, tu peux juste gagner. Donc ça va être juste une grande expérience pour nous, pour l'équipe, pour nous les fans. Donc on peut juste gagner.
Rien à perdre pour les Suisses. Comment on fait sans Johan Manzambi, Alexandre? Comment on fait sans le meilleur joueur de la Coupe du Monde pour la Nati?
Écoutez, la Suisse, elle a qu'une parole, c'est tous pour un. Pardon, c'est quoi déjà?
C'est quoi déjà?
Tous pour un. Peu importe s'il n'est pas là ce soir.
Ça, c'est les.
Il y a les Reds, il y a le reste de l'équipe. Et ils seront là et on va gagner. C'est sûr qu'on va gagner.
C'est la devise des mousquetaires, ça. Hein, c'est exactement, c'est la devise des mousquetaires. On va se faire un petit chant, les garçons. C'est quoi le chant des supporters suisses? On est prêts? On y va? Lucas, tu lances le chant? Je compte sur toi.
Tous ensemble, hey, tous ensemble, hey. Hey, tous ensemble. Hey.
Alors il me semble qu'il y a une version suisse-allemande.
Mais j'ai peur qu'il se fasse dévorer par les Argentins.
Quoi qu'il disait.
On l'a fait, la version suisse-allemande. Hopschwitz.
En allemand.
Allez, 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 allez. Schwitz-Nazi. Schwitz-Nazi, olé, olé.
Merci les garçons, bon
bravo,
match.
Bravo Jérôme. Et bon courage face aux supporters argentins, tu peux leur dire de ma part quand même.
Alors, les supporters argentins, pour vous raconter, chaque veille de match, les Argentins se retrouvent tous pour ce qu'ils appellent un banderazo. C'est-à-dire, ils se retrouvent tous pour, avec le barbecue, ils amènent tout ce qu'il faut pour manger, pour picoler, pour faire la fête, les drapeaux, les étendards et tout ça. Et donc, ils se sont réunis hier soir. Il y avait des milliers d'Argentins dans un parc de la ville de Kansas City, comme avant chaque match de l'Argentine. C'est franchement impressionnant.
Non, si vous ne l'avez jamais vu ça, vous qui nous écoutez, l'Argentine dans une ville de Coupe du Monde, c'est fantastique.
Mec, ils arrivent, ils sortent les barbecues, ils sont là tous ensemble.
Ça, mais tout le monde a le maillot.
C'est unique. Il y a qu'eux qui font ça.
Après, j'aime beaucoup aussi les Hollandais qui arrivent partout.
Les Brésiliens le font aussi.
À déferler en vague orange et ça donne une impression visuelle fantastique aussi.
Il n'y a pas ce côté où on est dans la ville, en famille.
Les Argentins sont un sacré. On va garder 5 minutes pour parler du match quand même. Alors, Jérôme, vous avez une petite indication historique importante. C'est le premier quart de finale depuis 1954 et je vais t'en piquer une autre que j'ai lue dans ton papier, Jérôme, qui est très impressionnante. C'est que la Suisse est la seule équipe avec la France à être systématiquement qualifiée pour les phases d'élimination directe dans les grands tournois depuis 2014. Les autres grandes nations européennes ne l'ont pas fait. Donc c'est quand même une constance à haut niveau intéressante. Comment la Suisse peut exister face à l'Argentine? Comment ils peuvent les gêner, Jérôme?
Mais en fait, Lucas, on a parlé un tout petit peu. Pour moi, ce qui va être décisif, c'est l'aspect mental. C'est comment les joueurs vont aborder cette rencontre. Est-ce qu'ils vont se satisfaire de ce parcours magnifique, le plus beau parcours dans l'histoire de la Coupe du Monde pour la Nati? Ou est-ce qu'ils vont se dire, on a encore faim, on a encore envie, on veut aller plus loin? Quand on écoute le discours des joueurs, Granit Xhaka hier en conférence de presse, le capitaine, le mec, il est habité, il ne veut pas s'arrêter là. Je vous propose qu'on a le son de Denis Zakaria,
oui,
ou Pierrot, ou pas
fait,
que j'ai
fait,
rencontré hier en zone mixte. On va pouvoir le jouer. Écoutez. A priori, dans leur discours, ils ont envie de plus.
C'est quelque chose d'assez incroyable pour nous. Après, comme on l'a toujours dit, on était venu pour ça, pour écrire l'histoire, pour arriver jusqu'ici en tout cas. Et on a faim de plus, on a faim de victoire et on a envie d'aller plus loin et d'écrire encore plus l'histoire.
Alors la Suisse a encore faim, c'est évident, c'est indispensable. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent vraiment les gêner et les battre?
Moi, je pense qu'ils peuvent les gêner, moi.
Ouais.
Moi, vraiment, je pense que l'Argentine, moi,
sans Manzambi, on le rappelle.
On en a parlé, même sans Manzambi, parce que je trouve que Ndoye et Vargas ont du talent, même s'ils n'ont pas la qualité de Manzambi sur le début du tournoi. Mais je les trouve très solides défensivement et au milieu de terrain. Moi, je pense qu'ils peuvent gêner cette équipe de l'Argentine avec Granit Xhaka notamment et ses coéquipiers. Parce que moi, le match contre l'Argentine m'a quand même déçu sur la performance globale. Parce que
face à l'Égypte, tu veux dire ?
Parce qu'ils ont les occasions pour mener au score très rapidement, ils le font pas. Et derrière, moi, je trouve que défensivement, en transition, j'ai vu quand même une équipe qui était très friable par rapport à une équipe égyptienne qui n'avait pas énormément de munitions. Et sortir la Suisse, hormis le 6-1 avec le triplé de Ramos en 2022, regarder à chaque fois comment les équipes sortent la Suisse, c'est souvent très très compliqué. L'Argentine en 2014 avait attendu la 118e minute avec un but de Di Maria pour les sortir, et Messi, la caméra cachée, il y a un moment où ce qui se passe depuis le début de la compétition, il va pas te liquider les rencontres.
Je sais pas, mais
il y a un moment où il va falloir que d'autres joueurs,
je sais pas si t'as vu ce papier sur ces volumes de course. C'est le mec qui marche tout le temps, mais qui décide quand est-ce qu'il court pour faire gagner l'Argentine.
Il termine ailier droit façon Barça 2012-2011 sur la fin de match à la 90e minute contre la Suisse. J'ose espérer quand même que Messi, à un moment donné, ça va. Nous, on le souhaite pas pour le football, hein, mais juste que moi, il y a un moment, je trouve que l'équilibre, le collectif suisse, le calme, la charnière centrale, Elvedi, Akanji, Zakaria, c'est athlétique, c'est dans la densité. Moi, je me dis attention à l'Argentine ce soir.
Ok, Daniel. Façon,
le meilleur argument, c'est celui de voir ce qui vient de se passer sur les 15 derniers jours. Si le Cap-Vert et l'Égypte ont pu emmerder les Argentins, il n'y a aucune raison que les Suisses ne le fassent pas.
Okay.
Tu peux même pas dire les Argentins sont prévenus, parce qu'on pensait déjà qu'ils l'étaient après le Cap-Vert. Je pense pas qu'ils aient pris de haut l'Égypte. Non, c'est la config du match qui les a emmerdés.
Il y a un scénario qui leur est pas favorable.
Oui,
clairement,
non, mais même la config avec une équipe qui joue très bas et qui cherche à contre-attaquer, c'est pas top pour les Argentins qui manquent de vitesse et qui peuvent se faire manger dans les phases de transition. Quelle va être l'approche des Suisses? Est-ce qu'eux vont vouloir attendre? Est-ce qu'ils sont capables de créer? Je pense que c'est plus une équipe de transition aussi. Je pense qu'on risque d'avoir un cas de figure, un scénar de match où les Argentins vont avoir le ballon, vont jouer. Après, c'est toujours évidemment si tu marques en premier, si tu marques pas en premier. Mais la Suisse, ça me semble plus solide que l'Égypte. Plus solide que le Cap-Vert.
Ils ont congelé la Colombie qui était l'équipe frisson depuis le début de la compétition. Donc, je vois pas pourquoi ils le feraient pas aussi contre l'Argentine qui a moins de rythme, moi je trouve, en tout cas qui a moins de volume sur les côtés, notamment avec Luis Diaz. C'est très central ce que fait l'Argentine. Donc moi j'ai des doutes sur
Il y a beaucoup d'arguments en faveur de la réflexion consistant à dire que oui, ils peuvent les emmerder. Maintenant, puisque l'Argentine fait basculer ses matchs dans une dimension souvent irrationnelle,
émotionnelle,
et que ils mettent un truc dans les matchs différemment autour de Messi qui, parce que finalement c'est réfléchi tactiquement, l'idée de je marche mais je marche à tel endroit, enfin c'est pensé en plus comme approche et comme tactique. Oui, après il y a la dimension, mais la dimension émotionnelle, combien de temps ça va tenir? C'est ça, il y a des joueurs, De Paul, il est très fatigué, il a beaucoup de mal. De Paul, il y a quelques années, moi, c'est un milieu de terrain que j'adorais, mais là, il a beaucoup de mal. Paredes s'est installé devant la défense et va plus bouger.
Il a fait un gros match contre l'Égypte.
Parce que lui, c'est le joueur maintenant qui peut devenir un peu clé au milieu. McAllister, c'est plus celui de Liverpool. Enzo Fernandez, ça reste un bon joueur, même si depuis le début de la Coupe du Monde, il n'a pas brillé de mille feux.
Surtout Alvarez, qui est décevant.
Mais ça reste des mecs de qualité. Alvarez semble être un peu perturbé.
McAllister et Enzo Fernandez sont aussi un peu libérés défensif avec l'absence de Paredes.
Lautaro, sans avoir été dingo, il est royal sur la dernière action contre l'Egypte.
Mais ça va être dur. C'est-à-dire que l'Argentine est favori, bien évidemment. Mais juste que la question de Pierrot, c'est est-ce que la Suisse peut les gêner?
La question, elle se pose même pas.
Je pense que ça va être un match. Ça va être un match compliqué pour l'Argentine. C'est un match pour le numéro 18, Roland Garros.
Très vite, Jérôme.
Ouais, non, juste on aura un élément de réponse avec la compo de Mouratiakine, c'est-à-dire que s'il met Rieder en 10 avec Vargas et Ndoye sur les côtés en plus d'Embolo, ça veut dire 4 joueurs à vocation offensive, ça veut dire qu'il a envie d'être protagoniste. S'il enlève Vargas pour renforcer son milieu de terrain et mettre Yachari, par exemple, le joueur du Milan, bah, on va comprendre que l'équipe suisse va plutôt d'abord attendre son adversaire.
Ok.
Mais ils ont ces deux possibilités là.
On surveillera ça. Merci beaucoup, Jérôme. Amuse-toi bien avec tes amis valaisans qui ont l'air très sympathiques, ma foi. Dans un instant, c'est l'avis de Walid sur le bilan des équipes africaines et on a la compo. On aura la compo de Norvège-Angleterre. Vas-y maintenant si tu veux.
Non, il y a la compo. Non, c'est pas plus tranquille.
Allez, à tout de suite.
On n'est pas pressé.
RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Pierre Dorian.
L'afterfoot intégrale Coupe du Monde, Daniel Riolo, Walid Acherchour. On a beaucoup de choses sur le barbecue de l'after parce qu'on va continuer à parler de l'Argentine. On a les compos de Norvège-Angleterre, l'avis de Walid sur les équipes africaines et une info qui va intéresser tous les tifosi, tous les fans de la Squadra Azzurra, puisqu'il y a Paolo Maldini qui débarque, alors non pas en tant que sélectionneur mais en tant que directeur technique de la Fédération Italienne de Football, avant probablement rapidement de désigner un sélectionneur. Daniel, je ne sais pas si tu peux nous éclairer sur le rôle du directeur technique en Italie.
C'est censé être la même chose que... Comment il s'appelle déjà notre DTN ? Je me dis toujours son nom.
Notre DTN, c'est Hubert Fournier.
Ah, bravo. L'homme qu'on ne voit jamais, l'emploi fictif. voilà.
Après, nous, c'est un peu particulier. Tu sais, les cadres techniques, on les recycle très facilement, donc c'est un peu toujours les mêmes.
Là, en fait, c'est celui qui va penser la nouvelle politique sportive du pays, quoi, la formation des jeunes.
C'est lui qui va choisir le sélectionneur, tu penses, ou le président ?
De toute façon, ça ne peut pas se faire en désaccord avec lui. Ouais.
Bon, voilà pour l'info sur l'Italie. Juste avant les compos de Norvège-Angleterre, on termine sur l'Argentine, Daniel.
Oui, parce qu'on parlait du côté irrationnel des Argentins et des productions, finalement, qui sont les leurs depuis le début de la compète. Et c'est, en fait, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime autant cette équipe. Parce que moi, le foot pour le foot de très haut niveau, c'est... à partir des quarts de Ligue des Champions, je m'emballe et tout. Mais moi, ce qui m'a toujours plu dans le foot, au-delà de tout, c'est l'histoire qu'on raconte. Mmh. Les Argentins, en fait, et j'ai du mal à comprendre que parfois on comprenne pas ça, en fait, ils ne jouent pas au foot. Eux, ils font basculer la Coupe du Monde, leur façon de voir le foot. Eux, c'est... On écrit un roman au quotidien. Ça fait maintenant... Ils l'ont commencé, ils l'ont toujours écrit, leur roman. Ça a toujours été comme ça. Maradona, c'était un roman. 94, c'est un roman. Comme le comeback de Maradona. En fait, ça n'est pas que du foot. Mmh. Et ils ont commencé l'histoire Messi, nouvelle version en 2002 au Qatar. Et en plus, c'est toujours accompagné d'une chanson qui explique un peu quelle est la mission, pourquoi ils sont motivés, quel est le chemin. Voilà. Et là, ils continuent d'écrire le roman, nouveau chapitre du roman. Nous allons aller chercher la quatrième étoile pour telle et telle raison, parce qu'il faut venger Maradona. Et ils sont habités par ce truc-là, avec tous ces supporters qui les suivent partout. On a raconté ce qu'ils faisaient quand ils étaient dans des villes. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, je suis passionné par cette sélection. Parce que, en fait, elle ne me raconte pas qu'une histoire de
football. Ça dépend des chansons, quoi.
Elle raconte une histoire de vie. Moi, je te parle des quatrièmes, celle Muchachos de la dernière. Oui. Celle-là, elle s'appelle la Quarta.
La quatrième étoile.
Moi, je suis passionné par ça. Ils me racontent autre chose que du foot. Mais si, depuis le début de la compète, je suis désolé, un mec qui, encore à 39 ans, te laisse bouche bée.
C'est génial.
Non, c'est juste dingue.
Pour moi, c'est une IA.
C'est fou. C'est fou. Tu vois, alors, mais même moi, à la place des Suisses, je me casse la tête. Je me dis, mais évidemment qu'on peut leur poser des problèmes. Évidemment. Mais c'est quoi cette équipe qu'on a en face de nous? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire?
Je pense qu'il y a énormément d'équipes qui a au 2-0 après l'Égypte. Il rentre à Buenos Aires. N'importe quelle sélection à 2-0, c'est terminé. Et là,
avec l'histoire nous savons gagner dans la souffrance. À chaque fois, en fait, ils ont un commentaire pour expliquer leur performance qui n'est pas un commentaire de football. C'est nous, on va gagner dans la souffrance. Est-ce que vous avez vu la réaction quand même assez dingue de Scaloni après le but d'Enzo Fernandez? Elle est folle, sa réaction. Il n'y a pas d'explosion de joie et tout. C'est en fait comme si ils ne croient pas à la propre histoire qu'ils sont en train de se raconter. Tu sais, il met les mains dans la bouche, il s'écarte, il dit, mais il se passe quoi, en fait, là? Elle est dingue, cette réaction. Voilà pourquoi
c'est. Et t'aimes bien parce que ça chiale beaucoup, quand même, les Argentins, non?
Non, ça chiale pas trop.
Ah, ça chiale pas?
Ah non, c'est les Brésiliens qui chialent.
Il
a la grinta.
Oui, mais ça quand même, ça pleure. Non, ça pleure pas.
Ils se souviennent de la finale, Daniel, la finale 2022. Ils sont écrasés par l'émotion alors qu'ils nous dominent.
Même le Mexique domine largement. Le deuxième match après l'Arabie Saoudite.
Et quand on revient, tu as des gros plans sur le banc. Ils sont tous en pleurs.
En plein match contre le Mexique sur le deuxième match. Je sais pas si tu te rappelles de cette vidéo où à 0-0. en fait, ils vont prendre la porte.
Derrière, c'est pour ça qu'il est plus. Scaloni, après le Cap Vert, il ne pouvait plus parler. Souviens-toi, après le Cap Vert, il a dit non, mais je m'exprimerai pas parce que j'y arrive pas.
Que lui, il allait comme ça. Oui, Walid faisait allusion à Neymar, Ronaldo qui sont tout le temps en train de chialer dès qu'il y a un contre-temps. Ils sont là, les maillots, ils se mettent en train de.
Non, mais non, ce qui est fort avec l'Argentine, c'est que malgré cette émotion-là, elle les galvanise.
Et en fait, cette émotion ne leur fait pas perdre leurs moyens.
Ça leur permet de. C'est comme au tennis quand tu casses une raquette, est-ce que ça te fait du mal ou pas? Et avec eux, c'est ça qui est fascinant.
Il raconte une histoire qui est assez fascinante. Ouais. Effectivement, il te laisse bouche bée, même dans un match tout pourri contre le Cap Vert et tout. Et c'est pour ça. Bon, après,
après moi, je pense que Léo Messi magnifie tout ça. Je pense que si Léo Messi n'est pas dans cette équipe-là, c'est pas du tout la même chose. Même dans l'attente, je pense que ce soir, s'il y a Argentine-Suisse sans Messi, par rapport à ce qu'il raconte comme roman, je pense que c'est pas le même. Oui, tu vas pas à la bibliothèque.
Mais évidemment,
tu vas lire le livre de manière différente.
Et en fait, je vais presque te dire, si jamais. Le roman doit se terminer. Il doit se terminer sur une série de pénaux avec Messi qui rate. En fait, bon après,
dans le drama quoi.
Il y a une affinité culturelle avec l'Italie qui me touche évidemment, mais parce que par rapport à certains matchs complètement pourris que t'es obligé d'aller gagner dans les sueurs et les larmes, comme à la Coupe du Monde 94 où Baggio arrivait comme sauveur et tu t'en sors contre le Nigeria alors que tu dois pas t'en sortir exactement comme les Argentins. Ils ont ce côté romanesque dans leur façon de raconter le football qui existe dans pas tous les pays. Hein. Il y a des pays qui sont beaucoup plus cartésiens, ils jouent au foot, machin, c'est comme ça, et voilà.
Donc le prochain chapitre, c'est à 3h du matin sur RMC, c'est donc Argentine-Suisse avec Jérôme Sillon. Mais nous, le prochain match qui arrive, ça va être Norvège-Angleterre. On est en direct de Miami avec Aurélien Thiersin qui a la feuille officielle de la FIFA sous les yeux. Salut Aurélien.
Salut Pierrot, ouais, salut à tous. Effectivement, bon, on a Haaland et Kane, le duel aura bien lieu et ça, il n'y a pas de surprise. Côté norvégien, c'est du classique, Nyland dans les cages, Egem Ayer en défense centrale, Møller-Wølfe à gauche, Ryerson à droite, Berg et Ødegaard dans le cœur du jeu. Le seul petit changement, c'est Andreas Skjeldrup, titulaire à gauche. D'habitude, c'était Antonio Nusa, mais le joueur de Leipzig est sur le banc des remplaçants. Il est aussi sous le coup d'un carton jaune.
Enlevez-moi ce mauvais métal norvégien, là, je peux pas, là, c'est trop là, non. Non, Daniel, non,
peux pas. J'ai rien fait, moi.
Non, Daniel Torres.
C'est la culture.
Réalisation. Bon, excuse-moi, Aurélien, continue.
À gauche. Non, t'inquiète pas, trois passes décisives quand même. Skjeldrup, donc dans la compétition, c'est l'ailier de Benfica, il est titulaire. Sorloth à droite, ça c'est peut-être d'ailleurs une autre surprise parce que bon, ailier droit, j'ai toujours pas compris, il arrive pas à accélérer, il arrive pas à centrer et il marque pas. Mais il est titulaire. Et côté Angleterre, Madueke, Kane.
Il faut les mettre.
Ouais, c'est vrai.
Bah, c'est ça.
Ouais, mais il y en a d'autres des bons joueurs, tu vois. Bob sur le banc, oui, qui pour moi est un meilleur joueur que
Sorloth sur un côté.
Sur l'autre, il doit jouer à la place d'Haaland ou sinon il est sur le banc.
Exactement. Bah, de l'autre côté, donc Gordon Madueke sur les côtés, Saka sur le banc. Ça aussi, c'est peut-être une petite surprise. On va voir si physiquement il est à fond, mais normalement,
ça,
oui.
C'est fou.
Ouais. Bellingham, Kane, évidemment, devant. Rice, Anderson au milieu du jeu. Et Ezri Kansa, titulaire à droite, pas de Rhys James, donc on va faire John Stones, Mark Gay dans l'axe, Nico Orei à gauche et Jordan Pickford. D'ailleurs, Pickford, 18e titularisation en Coupe du Monde, il dépasse Peter Shilton, donc maintenant visage du gardien dans l'histoire de l'Angleterre, c'est Pickford.
Gros gardien sérieux quand même, Pickford. Avec l'Angleterre, je trouve.
Moi, je le trouve pas hyper rassurant dans cette Coupe du Monde.
Mais contre le Mexique, j'ai trouvé un très bon.
Un Mexique monstrueux, mais avant, bizarre parfois.
Oui, parfois un peu bizarre. Ouais.
Qu'est-ce que tu comprends pas dans la titularisation de Madueke, Daniel?
C'est juste que c'est pas un bon joueur.
Oui, mais Saka, il fait pas une bonne Coupe du Monde.
Ah ouais, mais enfin, à un moment,
Saka, il fait trois passes-dés quand même, Saka.
Il faut lui dire. Bah, bon, alors, c'est vraiment qu'il peut pas.
C'est étonnant de voir
ça. Ça veut dire que ça veut vraiment dire que Saka tient pas.
Sur le premier but anglais contre le Mexique, c'était lui qui était à l'origine.
De toute façon, tu vas toujours être dans l'attente de à quel moment j'arrive à prendre le ballon, faire 2 mètres et décocher une frappe lucarne. Quand ça va arriver, tout le monde va applaudir.
Ouais, il dynamite quoi.
Mais en attendant ce moment-là, qu'est-ce qu'il perd comme ballon? C'est un QI football, franchement, proche du. Pas du 0, mais du 2, quoi. Ça va pas chercher beaucoup plus loin. Moi, c'est le type de joueur qui m'a.
La prise de décision, c'est quand même.
En plus, il fait partie de ma nouvelle théorie du joueur à bandeau, là.
C'est quoi la théorie du joueur à bandeau?
Bah, celui qui met bien les nattes, bien
grosses. Ouais, ça, c'est louche.
En fait, se soucie plus de ça que de sa performance sur le terrain. Je signale que tout ça a été éclairci par un coiffeur hier soir dans la
fenêtre. Ah,
je vous conseille le dernier quart d'heure de l'émission. Tout est maintenant.
Mais parce qu'on avait Gervinho comme super joueur à bandeau.
C'est joueur irrégulier.
Ah. On a eu une contre-expertise.
Joueur à avec 13 comme ça, c'est joueur irrégulier.
On a eu une contre-expertise ou pas? Contre-expertise d'autres coiffeurs?
Peut-être ça mérite.
On lance un appel pour d'autres coiffeurs qui sont pas d'accord avec Daniel.
Daniel, parce que Daniel, là, on le connaît. Il aime bien, des fois, catégoriser. Prendre des mecs de son équipe. Ah, quoi faire le star, d'accord. Donc, on lance un appel quand même. Mon Instagram est ouvert. Mon Instagram est ouvert.
Koundé n'est pas gêné par le bonnet qu'il avait l'autre soir.
Je sais, je l'ai trouvé un peu excessif dans ton analyse.
Mais je te dis qu'il est gêné.
En plus, Koundé, il a fait un bon match. Du coup, je l'ai critiqué, mais il a fait un bon match.
Tu sais qu'à un moment, il ajuste son bandeau quand il est en face à face, un contre.
Donc, tu penses que s'il enlève le bandeau, là, c'est le meilleur latéral du monde?
Non, il est meilleur.
Et il est meilleur.
Il gagne 5%.
Wally, ton avis, Madueke, Saka.
Le joueur, là, tu lui rajoutes, tu augmentes un peu sa note.
Ok.
Ah, c'est ça.
Non, mais bon, je suis d'accord. Moi, je préfère bien évidemment Saka. De toute façon, on l'a bien vu sur la fin de saison, hein, avec Arsenal. Madueke fait partie des joueurs qui peuvent faire des différences athlétiques. Mais le problème, c'est que, à la fin, il y a très, très peu de. Il y a très peu de stats au tableau d'affichage. Après, il va peut-être nous faire mentir ce soir. C'est un mec qui fait beaucoup de courses, mais je préfère un Saka qui est beaucoup plus simple dans son jeu, mais qui est beaucoup plus intelligent et connecté au reste de l'équipe.
Okay.
Mais il doit peut-être avoir une raison physique, peut-être.
Si on regarde le 11 norvégien, on parlait de Sørloth, Oscar Bob, mais il n'a pas mis non plus Nusa. Hein.
Oui,
il a un problème, Nusa, ou pas, Aurélien?
Non, c'est, a priori, non, c'est pas ce qu'on nous a dit, mais Sreldrup, il fait des meilleures entrées que Nusa, donc c'est vraiment les deux qui jouent ailier gauche. Après, il a privilégié le joueur de Benfica.
Après, Sreldrup est un vrai joueur, un vrai bon joueur. Il fait à chaque fois des très bonnes entrées. Bah, contre le Brésil, il a vraiment été dangereux. Et je pense qu'il est sur un 60-30 aussi, le coach de la Norvège.
Comme tu veux dire, un Doué Barcola.
Ouais, non, mais s'il rentre, Nusa et Oscar Bob sur les 25 dernières minutes, ça peut faire très très mal sur les latéraux anglais qui sont pour moi quand même pas exempt de tout reproche.
Ça peut faire mal, faudrait pas que ce soit plié d'ici là. Voilà, c'est ça le problème.
0 à la 60e minute. Parce que pour moi, Sørloth sur un côté, depuis le début de la compétition, je comprends pas comment c'est possible d'insister. Ouais. Et la Norvège continue de faire des performances avec cet handicap parce qu'ils jouent à cloche-pied.
Ils ont un joueur devant qui marque.
Oui, mais ils jouent à cloche-pied d'un côté.
C'est une équipe qui est très homogène. Parce que
très sincèrement,
sur
ils sortent contre le Brésil,
et sur Island aussi.
Ok, évidemment, mais enfin, non, mais le raisonnement de dire s'il manque un tel, c'est pas la même équipe.
Non, mais c'est important pour expliquer la réflexion de Walid.
Ok, bah ils sont à Londres, ils jouent avec Sørloth devant, et évidemment qu'il serait moins fort. Oui, bien sûr.
Et encore
La Norvège, la question, c'est on est arrivé au sommet, on est arrivé au top de ce qu'on peut faire. On savait que c'était une bonne équipe, on savait que ce serait, en tout cas moi j'avais dit que ce serait une des équipes à suivre et surprise de cette Coupe du Monde. La phase de poule qu'ils font de qualif a montré que c'était une équipe très forte. Maintenant, contre les Anglais, si ce que j'appellerais quand même, je ne sais pas si exploit est le bon mot, mais en tout cas s'ils sortent les Anglais, là, ils entrent dans une autre dimension.
C'est retentissement. Moi,
c'est et si les Anglais, au point où ils en sont, à toujours revenir, toujours dire on a des bons joueurs, on veut enfin briser la malédiction, on est enfin un candidat à gagner quelque chose, tu te fais taper par la Norvège, bah, Tuchel, qu'on vient de pas me dire, Tuchel, il a réussi quelque chose. Tuchel, t'auras été comme les autres, t'auras fait tes choix. Osé, audacieux, courageux de sortir certains mecs, mais tu vas te les reprendre dans la gueule direct.
Ça sera une des questions de notre avant-match.
Les Anglais, la Norvège a été forte, la Norvège à Hollande, la Norvège à machin truc, là, ils ont fait des bonnes qualifs devant l'Italien, les Anglais n'ont rien à cirer. Ça.
Alors, ça sera l'une des
si
questions.
Les Anglais contre la Norvège, ça va très mal se passer pour Tuchel.
De notre avant-match, Tuchel a-t-il réussi son pari? La Norvège peut-elle aller encore plus haut? On sera avec Manu Petit qui va nous rejoindre. Et puis, Walid, on ne t'oublie pas, hein, ton bilan des équipes africaines, ton avis sera fait après 22h. C'est l'afterfoot intégral Coupe du Monde. Norvège-Angleterre 23h et Argentine-Suisse à 3h du matin sur RMC.
RMC, l'afterfoot intégral Coupe du Monde. RMC, l'afterfoot intégral Coupe du Monde.
Pierre Dorian.
L'afterfoot intégral Coupe du Monde avec Daniel Riolo et Walid Acharchour. Dans une heure, le coup d'envoi de Norvège-Angleterre. On va beaucoup parler de cette rencontre jusqu'au coup d'envoi. Et bien sûr, à 3h du matin, Argentine-Suisse. Messieurs, on fera aussi l'avis de Walid sur les sélections africaines. Tu as été déçu du bilan. Bon, elles étaient nombreuses. Hein. Il y a quand même 2-3 réussites, mais tu vas détailler tout ça dans quelques instants. D'abord, on va retourner à Miami avec Aurélien Tiercin. Aurélien, une petite carte postale sur l'ambiance qui monte à Miami d'abord, et ensuite on va rappeler les compos d'équipe. Il y a des choses importantes, hein.
Oui, bah alors le Miami, le Hard Rock Stadium de Miami, déjà on est au milieu du circuit de Formule 1, donc c'est vrai que c'est une carte postale assez particulière pour un stade de foot, habituel stade des Miami Dolphins, donc équipe de foot US pour l'instant. Bon, le stade comme d'habitude en Coupe du Monde, il est pas plein, il y a tellement de choses à faire en dehors, aller boire un coup, aller à la piscine, une petite piscine à l'extérieur, il y a beaucoup de choses à faire, acheter des goodies aussi. Il y a plus de Norvégiens pour l'instant dans le stade, en supériorité numérique par rapport aux Anglais. Non mais là, il aurait de quoi. Il aurait de quoi dépenser un petit peu.
Ah bah, et
non, on n'a pas vu qu'il vide à Miami.
Il vide une boutique. Lui, dès qu'il y a les goodies, il vide la boutique.
J'ai vu ça. Et non, voilà, plus de Norvégiens que d'Anglais, donc ça c'est assez étonnant. Et puis normalement, le coup d'envoi, comme on l'avait dit sur RMC Sport hier soir, ne sera pas décalé. C'est parti pour 17h. C'est nuageux, mais il n'y a pas d'éclair ni d'orage à l'horizon.
Et il va y avoir un beau match de supporters quand même entre les Norvégiens et leur rowing et les Anglais qui sont quand même fabuleux. Hein, les supporters anglais, on a parlé des Hollandais et des Argentins, mais l'Angleterre c'est quand même quelque chose. Rappelle-nous les compos et peut-être juste les choix des deux sélectionneurs en attaque notamment, hein, parce que pour le reste, oui, pas de surprise.
Oui, exactement. Côté norvégien, Haaland, Sørloth et Sreldrup, titulaire sur le côté gauche à la place d'Antonio Nusa, qui était habituellement titulaire côté norvégien. Et puis côté anglais, Kane, Bellingham, Gordon, Madueke devant, donc Nonny Madueke titulaire, et aussi John Stones titulaire dans l'axe de la défense, en décalant donc Ezric Kansa sur le côté droit.
Allez, on va rentrer dans ce match dans un instant, mais d'abord, chose promise, chose due, c'est à toi Walid, ton avis, c'est ça.
Déjà, ils avaient mis un peu un grain de sel dans la machine marocaine.
Un grain de sable. Un grain de sable. Bon, franchement, voilà, elle n'est pas grosse, celle-là. Voilà. Non, oui, ça
elle passe. Elle passe.
Oui, alors, je voulais parler, ton avis, c'est le bilan des équipes africaines
après
qui est
la décevant. Défaite marocaine contre l'équipe de France. Je voulais faire quand même un bilan des 10 tickets africains. J'avais été plutôt emballé par le début de compétition, avec notamment la densité en 16e de finale. Mais au final, c'est globalement décevant. Dans la globalité, on va faire cas par cas, bien évidemment, parce que chaque pays a eu son histoire, a eu son parcours, un peu comme les Français en Grand Chelem, quoi, un peu comme les Français en tennis à Roland Garros. Chaque histoire est très très différente, mais pour un continent qui avait la canne il y a 3 mois, moi je pensais que ces équipes africaines pouvaient surfer sur la dynamique pour aller chercher un peu plus d'équipes en 8e de finale, là où le tournoi devient un peu sérieux. Et hormis le Maroc, et en plus le Maroc, ça se termine, je trouve, moi, dans l'image, un peu de manière décevante, parce que se faire éliminer par l'équipe de France, bien évidemment, il y a pas d'injure, il y a pas de scandale. Vu la force, c'est surtout la manière, moi, qui m'a quand même globalement déçu. Même si le Maroc, je les mets de côté, ils ont fait un super tournoi, et revenir en quart de finale, ça reste énorme. Mais derrière, en fait, il y a les locomotives derrière le Maroc qui, moi, m'ont globalement déçu, parce que j'avais beaucoup d'attentes. La Côte d'Ivoire qui a fait une fin de match contre la Norvège problématique, alors qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Le Sénégal surtout, c'est un peu comme, parce qu'on parlera des belles histoires, et les belles histoires, il y en a eu avec le Cap-Vert et la RDC, surtout le Cap-Vert. Mais sur ma comparaison tennistique, c'est un peu comme si Édouard Roger Vasselin faisait un troisième tour à Roland-Garros, mais que mon fils et Tsonga, qu'on attendait en quart de finale,
ou Hugo Gaston,
mais c'est le mec qui sort comme ça, avec voilà, le Cap-Vert, avec la belle histoire, mais par contre, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, qu'on attendait vraiment costaud, t'es déçu.
La Côte d'Ivoire, il passe pas loin. Autant le Sénégal, je suis d'accord qu'il s'aborde.
Oui, il passe pas loin non plus.
Contre la Belgique.
Oui, mais je trouve.
Mais la Côte d'Ivoire, c'est un vrai match contre la Norvège. Le but de Haaland est même un peu chanceux parce qu'il se rate. Mais au fond.
Pour terminer mon avis, moi, je trouve qu'il y a trop de fédérations, encore une fois, qui fonctionnent mal. Il y a trop d'instabilité. Je trouve qu'il y a une gestion de la part de certains coachs, que ce soit sur les compos de départ ou sur les lectures de rencontres, qui sont trop rédhibitoires à ce niveau-là.
Il y a trop peu de jeux proposés.
Il y a du jeu aussi
à part la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui essayent véritablement de jouer.
La Côte d'Ivoire et le Maroc, hormis ça, je trouve que les collectifs sont pas géniaux sur cette Coupe d'Afrique des Nations, sur cette Coupe du Monde. Alors oui, bien évidemment que le format fait que tu peux te qualifier en 16e de finale en gagnant un match contre une équipe plus faible et en faisant un match nul, comme a pu le faire la
l'Algérie qui a fait un... Par exemple, l'Algérie, c'est pour moi le symbole. L'Algérie a fait quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations, bon, en tapant la RDC à la 78e minute, mais sans véritable fil conducteur. Derrière, ils arrivent à la Coupe du Monde, ils battent la Jordanie, l'équipe qu'ils doivent battre, ils font le match nul contre
l'Autriche,
et ils se font massacrer par la Suisse avec un entraîneur qui a fait une compo catastrophique. Donc en fait, au final, t'as fait 16e de finale dans ce tournoi, mais qu'est-ce que t'en retiens en fait? T'as gagné contre l'équipe sur lequel tu devais gagner, et derrière tu prends la porte.
Équipe en fin de cycle, t'attendais pas grand-chose de l'Algérie.
Je vais pas parler de la Tunisie qui a été la risée.
Non, mais le seul truc, c'est que sur ton avis, Walid, en fait, ça concerne essentiellement deux sélections qui avaient un potentiel, c'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal.
Au final, quand il y a eu des
arrivées, si tu gagnes autant de tickets, ça veut dire que t'es censé mériter et montrer que tu mérites les tickets. Et si les tickets, le sujet c'est pas l'Asie, mais l'Asie, c'est pour ça que je remettais toujours en question la formule. C'est que t'as fait ça pour gratter des tickets. Mais si les tickets, c'est juste aller représenter ton pays et être mauvais ou être décevant. Non, mais la question du nombre de tickets, on a le droit de se la poser finalement.
En fait, mon avis n'est pas populaire parce que en termes de densité, tu as placé 9 équipes en 16e de finale, hormis la Tunisie. Ça reste une performance qui est positive. Mais moi, je veux prendre l'autre face de l'iceberg, c'est que quand ça a commencé, quand ça a été très sérieux, hormis le Maroc, c'est déception sur déception. Et que entre l'Afrique du Sud qui a pas existé, parce que l'Afrique du Sud, c'est une bonne chose de passer en 16e, quand tu vois la poule avec la Corée du Sud, avec la République tchèque, sauf que contre le Canada, t'as pas existé. L'Algérie contre la Suisse, t'as pas existé. Quand tu existes comme contre le Sénégal, tu te choques de manière incompréhensible sur la fin de match contre la Belgique. La Côte d'Ivoire, quand tu regardes dans les yeux la Norvège, tu te choques encore. Donc en fait, chaque réalité est différente à travers les sélections, mais au final, moi je pense qu'il y avait une Coupe du Monde pour faire beaucoup mieux pour beaucoup d'équipes. Et hormis la RDC et le Cap-Vert, y a très peu d'équipes qui ont surperformer.
On va te donner la parole à Abdel, supporter marocain.
J'aurais voulu réagir à ça.
Vas-y, Daniel. On démarre avec Abdel sur le Maroc, je pense.
L'Égypte, ils battent l'Australie, pour moi, globalement.
Oui, mais ils vont rester dans l'histoire de cette Coupe du Monde.
Mais encore une fois, ça se termine de manière frustrante parce qu'il y a deux manières de voir le match.
Alors, Walid, attends, on va faire Abdel d'abord sur le Maroc, Abdel.
Salut à toute l'équipe. Pas forcément sur le Maroc, je voulais parler de l'Afrique de façon plus générale et du fait d'avoir casé 9 équipes en 16e de finale. Alors moi, je faisais partie de la team, comme tous les supporters d'équipes africaines, qui étaient ravis d'avoir 9 équipes. Mais je suis sorti de cette team quand ça a commencé à parler de signes de progression. Parce que pour moi, je trouvais que c'était un peu réducteur et qu'on faisait un peu fi du contexte général. C'est-à-dire que t'as quand même 9 équipes, mais t'en as aucune qui a fini premier. T'en as quand même 5 qui ont fini 3e, si je dis pas de bêtises. Qui ont donc pleinement profité du système. Et au final, comme vous l'avez dit, quand c'est devenu sérieux, il n'y avait plus personne. Et après, il y a des contextes différents. Bien sûr que la RDC qui retrouve la Coupe du Monde après 52 ans d'absence, globalement leur parcours, ils ont
les califs des... avaient déjà proposé des surprises parce que la présence du Cap-Vert, présence de la RDC, il y a des nations on va dire habituellement plus huppé qui était passé au travers. On n'a pas parlé une seule seconde, je crois pas que tu l'as évoqué dans ton du Ghana qui était lamentable mais catastrophique. Il y a eu des belles générations au Ghana 2010, c'était une belle sélection où il y avait un vrai truc dans l'équipe quoi. Là c'était catastrophique réellement. Moi je pense que on en fait toujours je sais pas si on en fait trop. Mais en tout cas, dans cette Coupe du Monde, on en a trop fait. On en a trop fait pourquoi ? Parce que oui, il y avait la formule qui a favorisé le fait qu'avec une pauvre victoire contre une équipe en bois, tu pouvais te qualifier. Il y a le fait que, en France, parce que il y a beaucoup de gens qui aiment le foot africain ou qui ont des racines là-bas, ça fait qu'on y accorde beaucoup plus d'intérêt et qu'on les voit beaucoup plus beaux qu'ils ne le sont. Parce que c'est le cœur qui parle. Ceux qui pourraient être objectifs ne le sont pas toujours. Parce que c'est pour des raisons politiques, ils ont peur des réactions, parce qu'immédiatement t'es catalogué, t'as surtout pas le droit d'émettre la moindre critique, sinon tu prends cher. Donc tu dis pas toujours exactement ce que tu penses sur le niveau. Or, moi je ne démords pas que le Maroc, parce que le travail de la fédération, la réflexion même autour du jeu, il y a eu quelque chose qui s'est passé, que je pense que cette nation s'est installée. C'est pas le gratin mondial, mais attention, on est quand même top 10, top 12, on est par là. Factuellement, c'était top 8, mais je veux dire plus largement, c'est là. Côte d'Ivoire, on voit qu'également, il y a une forme de progression. En tout cas, il y a la volonté sur le terrain d'essayer de jouer au foot. Le reste, ça joue pas. Et surtout, Walid l'a dit, c'est des fédérations. Oh, faut se... moi, ce qu'a fait le Sénégal, c'est pas possible. T'as gagné la CAN. T'avais une équipe, franchement, avec beaucoup de joueurs de qualité. Tu viens pour proposer, alors d'abord, dans un premier temps, en prenant l'ordre, pour te péter en deux, tout seul, à l'intérieur du vestiaire, fédération, coach, qui fait sortir l'information comme quoi j'ai pas le contrat, la fédé qui répond, bon, ça va, il va pas nous emmerder avec son contrat. Bon, bref, ça explose tout le monde, mais en plus, sur le terrain, bah, si c'est tout le temps pour voir le bloc bas, les contres, les machins et tout, c'est bon, à un moment, on peut proposer autre chose, comme football. Bon, la caricature de ça, c'était le Ghana. Les RDC, je vais pas trop leur taper dessus parce que honnêtement,
ils ont fait leur tournoi, la RDC.
Qu'est-ce que tu veux dire à la RDC? Tu regardes la compo, c'est des mecs qui jouent en Ligue 2, c'est des mecs qui jouent dans des petits clubs.
Ils sont pas là depuis 50 ans.
Voilà, ils sont pas là donc
ils tiennent le Portugal.
Le truc qui m'agace, c'est le côté l'Afrique. Mais l'Afrique, c'est pas un bloc, bordel. Moi, je comprends pas en France qu'on a tout le temps la réflexion comme si tous les Africains c'était bras dessus, bras dessous, tous ensemble. Mais ils travaillent pas tous de la même façon.
Mais parce qu'il y a une légitimité à avoir dans cette Coupe du Monde là pour montrer que l'Afrique est au niveau. Tu parlais des tickets notamment.
Pendant la CAN, tout le monde se tape
dessus. Mais la CAN, c'est autre chose. La CAN, c'est ta récréation à toi. Okay. Sauf que là, t'es en interquartier.
Mais c'est quoi cette fausse unité qui est vendue au niveau mondial?
Mais non, il y a une unité.
Ça empêche l'analyse.
Il n'y a pas d'unité. Il y a une unité de compétitivité. En fait, il y a une volonté d'être compétitif et de montrer que ce continent se développe et que c'est.
Mais ce continent, mais Walid,
mais c'est une réalité.
S'il te plaît. Mais ce continent, c'est pas une.
Mais comment tu ne comprends pas que c'est différent par rapport aux Européens?
Regarde le Maroc. Puisqu'on parle de pays qui veut se développer et tout, je vais parler que de football et pas du reste. Le constat, on le voit. L'organisation de la CAN. Mais qu'est-ce qu'on a entendu dans une tonne de pays africains? Le seum, la jalousie.
Mais ça, c'est dans la CAN. C'est les dérives de la
CAN. Des nations. Donc, ne me parlez pas d'unité. Ne me parlez pas d'unité ou de bilan. Les Marocains, ils bossent, laissez-les tranquilles. Et les mecs, ils leur tapent dessus et ils sont jaloux.
Tu parles d'autre chose. Là, tu veux emmener dans le débat.
Donc,
parlons fort. Parlons de foot. Sur le foot, sur le caractère sportif.
Il faut séparer les dessins.
Non, mais sur le caractère sportif, tu es obligé, à un moment donné, vu que l'Afrique avait que 5 tickets, qu'ils en ont eu 10. Je fais un bilan Afrique parce que c'est important, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que l'Afrique, elle est quand même, elle a toujours été mésestimée globalement, que ce soit les joueurs, que ce soit les équipes, par rapport à d'autres continents.
Mais moi, je ne sais pas par qui,
Mais si. Là, sur les dernières années, peut-être que ça n'existe plus, mais tu es en quête de légitimité, tu as un enjeu là-dessus, que tu le veuilles ou non, mais c'est une réalité.
La légitimité, en Europe. Avant de la demander chez les autres, fais en sorte déjà que dans tes fédérations, ne te foutes pas le bordel tout seul.
Mais ça, c'est pas à moi que tu vas dire ça.
Regarde la sélection que tu es.
Mais il y a un enjeu de réussir. Tous les 4 ans, c'est pas à moi que tu vas dire ça. Tous les 4 ans, tu vois, le Maroc, quand ils font demi-finale de la Coupe du Monde, tu penses qu'ils font cette performance-là? Bien évidemment que pour le Maroc eux-mêmes, mais tu penses que ça ouvre pas des portes ou ça doit pas normalement donner une légitimité à ce que le continent africain peut faire?
Si ça donne envie à d'autres pays d'imiter, bien sûr. Ça crée une émulation, tant mieux. Mais ça ne va pas nous dire que la RDC et le Maroc c'est comparable, c'est deux pays de cultures totalement différentes.
Mais la RDC.
Pourquoi les mettre en face
Parce qu'en fait c'est global. La RDC qui fait un gros résultat.
C'est comme le Portugal et la Finlande, ça n'a rien à voir.
Non, mais ça, la RDC qui fait un gros résultat en Coupe du Monde, par rapport aux binationaux, par rapport au développement. En fait, quatre ans après, quatre ans après, parce que la RDC, ils ont une grosse diaspora belge, anglaise, française. Oui. Ça ouvre des portes. Quand on parle, on dit Bouadi, il choisit le Maroc, ou Brahim Diaz, il choisit le Maroc. Il y a le cœur, mais bien évidemment qu'on va pas, on va pas se leurrer. Il y a aussi le travail de la fédération, sportivement, parce que tu peux mélanger le cœur et le sportif. Absolument. Et donc, ça, c'est important. Pourtant, pour le développement des fédérations, des sélections, pour le développement du continent. Et ça passe par des résultats.
Mais je suis d'accord. Bah, visiblement, ils ne sont pas là.
Pour moi, Bouadi n'est pas avec le Maroc s'il n'y a pas 2022. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Il y a 2022, mais il y a aussi une réflexion. Allez, le travail derrière,
bien évidemment,
le travail de la fédération.
Ça va avec.
Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt que de démarrer dans le processus.
Et il y a un enjeu africain sur la Coupe du Monde.
Plutôt que de démarrer la Coupe du Monde en étant tous bénis, oui, oui, c'est formidable, les pays africains, plutôt que deuxième étape. Ouais. T'arrives 16e de finale. Mais quel résultat fabuleux, tout le monde. Déjà, les 16e de finale, c'est un tour factice.
Expliquer. Non, c'est pas factice pour les Africains. Mais non, c'est factice pour la France, si tu veux, mais pas pour les Africains.
Expliquer que s'ils sont là, c'est parce que la formule a permis de. Ah. Donc, la réalité. Ne pas mentir, mais raconter la réalité. Et à partir de là, tu travailles. Tu poses la question de pourquoi la Fédé sénégalaise a explosé. Pourquoi l'Algérie, qui a quand même, je pense, quelques joueurs, joue aussi mal et ne trouve pas un bon sélectionneur.
Mais ça, on va expliquer.
Voilà,
ça,
on avance, on travaille.
Mais le tour des 16e, il n'est pas factice pour les pays africains.
Non, Walid, merci pour avoir animé ce débat sur les sélections africaines. Daniel, merci. Je pense qu'on a bien fait le tour et surtout, on remercie.
C'est un débat intéressant.
Tout à fait. On remercie Abdel.
Il faut se poser.
Mais on est dans l'avant-match Norvège-Angleterre et le coup d'envoi approche puisque c'est dans 44 minutes. Et Aurélien Tiercin nous attend avec plein d'infos et on revient tout de suite dans l'After Foot intégral Coupe du Monde sur RMC.
RMC, l'After Foot intégral Coupe du Monde.
Pierre Dorian.
L'After Foot intégral Coupe du Monde, Daniel Riolo, Walid Acharchour, Norvège, Angleterre, coup d'envoi dans 40 minutes et puis à 3h du matin c'est Argentine-Suisse, Norvège-Angleterre à Miami, c'est avec Aurélien Tiercin. Aurélien, t'es avec nous depuis maintenant une bonne demi-heure. On a eu les compos bien sûr avec, on le rappelle, notamment Madueke titulaire côté anglais à la place de Saka et puis Schelderup côté norvégien à gauche. Les Norvégiens d'ailleurs qui sont sur la pelouse en train de reconnaître le terrain.
Absolument, ouais, en train de commencer l'échauffement classique. Évidemment, Haaland et Kane, parce que les Anglais aussi, quelques Anglais sont arrivés, dont Jordan Henderson, qui est bien disponible avec un espèce de gros plâtre moelleux à son bras gauche, après s'être explosé sur les panneaux publicitaires. Bon, alors c'est un peu rigolo, moins pour lui évidemment, mais de se blesser de cette manière-là, c'est compliqué. Il est bien dispo pour ce match côté anglais.
Tiens, on va écouter Erling Haaland dans un instant nous parler de cette rencontre. Haaland qui est monstrueux et qui la joue très modeste. Hein. Je sais pas si ça vous a frappé.
Toujours comme ça.
Oui, mais c'est un peu à l'image aussi de cette sélection norvégienne. Ouais. Parce qu'on a du mal à la calibrer.
Elle est décontractée, décomplexée. Elle joue, elle sait qu'elle est dans le tournoi de sa vie. Elle sait qu'il y a une très belle génération. Il y a un très bon groupe. Mais je pense que tu ne trouveras pas une équipe moins stressée, plus tranquille avant d'aborder un quart de finale de Coupe du Monde. Ils sont là, mais je suis même sûr. Enfin, si jamais ils doivent être éliminés, ils vont refaire le coup du dracard, le tambour. Au revoir, merci les gars, vous êtes là depuis le début. C'est la fête, ils partent en vacances.
Ils sont bien.
On écoute Erling Haaland et on en débat tout de suite.
I really love it,
Il est toujours très faible. Il y a toujours d'autres équipes favorites. Et soyons clairs, l'Angleterre en fait partie. Alors vous devriez mettre toutes les pressions du monde sur les gars anglais.
Ce qui est très faible, c'est la possibilité de gagner pour la Norvège. Mais je trouve qu'on a du mal à la calibrer vraiment, à savoir jusqu'où elle peut aller. Est-ce qu'elle est encore capable d'aller plus haut que ce quart de finale?
Moi, je n'écarte pas. On parle d'une équipe qui était dans le groupe de la mort.
Sénégal, France, Irak.
Qui n'a pas joué le match contre la France.
Qui n'a pas joué le match de la France. Et même en le bazardant, la deuxième mi-temps, elle est tout sauf honteuse de la part de la Norvège. Derrière, ils jouent quand même la Côte d'Ivoire, qui était l'équipe qui, depuis le début de la Coupe du Monde, était rafraîchissante dans une poule où ils avaient battu l'Équateur. Derrière, ils sortent le Brésil, froidement. Avec une performance aussi convaincante, même si pour moi le Brésil a été meilleur, mais dans les deux surfaces de réparation ils ont été plus forts avec Nyland et avec Haaland, comme dirait un certain Roland Courbis, avec un 1, avec un très bon numéro 1 et avec un très bon numéro 9, bah, tu gagnes des matchs de football.
Alors, il le dit, mais ça prend plus de temps.
Exactement. Mais c'est ce qu'on a vu contre le Brésil. Moi j'écarte rien avec cette équipe de la Norvège. Peut-être qu'ils peuvent faire une Danemark 92. Moi j'en ai parlé un peu avec Jimmy qui est souvent là sur le plateau. Qui disait, et je suis d'accord avec lui, la Norvège, ils passent l'Angleterre, pour moi ils vont en finale. Pour moi, ils peuvent sortir l'Argentine et la Suisse sans problème. Et ils ont tout, cette équipe a tout, je trouve, moi, pour avancer dans ce tournoi. Je m'explique. Ils ont un milieu de terrain qui peut congeler le ballon. parce qu'il y a une bonne, il y a une bonne base de Bodø/Glimt avec notamment les deux Berges, Berg et Berge, avec Odegaard qui, même s'il est très frustrant dans le dernier tiers pour faire mal parce que il est un peu tendre, il manque un peu de calcium dans ses finitions, mais par contre quand il faut congeler le ballon, eh ben il est là avec eux et ils ont des possessions défensives et ils ont un tueur devant, ils ont des ailiers quand il veut s'en servir le coach avec Nusa et avec Oscar Bob ou Schelderup qui sont dans le 1 contre 1 qui terminent leur action. Derrière c'est solide, il y a un côté athlétique, il y a un côté technique. Non, moi cette équipe de la Norvège elle est pas à mésestimer.
Je suis absolument sur cette ligne aussi. Je pense que
j'écarte rien, moi.
Exactement, moi j'écarte pas du tout. Pour moi c'est 50-50 sur ce match. Je vois pas les Anglais supérieurs.
J'irai pas
Anglais,
jusque là, je pense 60-40 quand même.
Ils ont une sorte de supplément d'âme, c'est vrai, de par la façon dont Tuchel a construit le groupe en donnant confiance, en donnant sa confiance à certains joueurs, en disant c'est vous les tauliers parce que regardez qui j'ai écarté. La responsabilité, il fallait la prendre, d'écarter certaines personnes. Parce que les Anglais, en termes d'individualité, c'est les seuls qui peuvent rivaliser avec la France en termes de réservoir. Mais moi, j'ai enlevé ces mecs-là, donc vous qui êtes là. Et Bellingham, contre le Mexique, il a fait un match de chiffonnier.
Il a été extraordinaire.
Il a été allé mettre deux buts, mais à côté de ça, il a fait le chiffonnier. Il était partout. Oui. Il courait. Lui, le short, il a bien sali. Donc, OK, on a compris que c'était l'axe Bellingham-Kane. Autour, moi, je trouve qu'il y a 2-3 limites. Bon, je ne vais pas revenir sur Madueke. Très bien.
C'est derrière, surtout moi.
Il veut faire confiance, oui, derrière, pareil. Il y a des limites. Madueke,
il gêne moins.
Mais j'ai l'impression que les mecs compensent ça par cet esprit groupe nouveau qu'on n'a pas toujours en Angleterre. Donc, le match contre le Mexique a dû leur faire beaucoup de bien dans la tête. Est-ce que ça peut suffire contre la Norvège, en plus des qualités de Kane, de Bellingham et des qualités globales qu'il y a dans cette équipe? On verra. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de physique, il va y avoir beaucoup d'impact dans ce match. On a un vrai, si on veut caricaturer, un vrai match de nordique, c'est-à-dire au sens ça va y aller, quoi. La culture du foot du Nord, à la bagarre, la tête, les contacts, et on va y aller, quoi.
On a deux équipes prêtes à ça.
Voilà.
Tiens, on a une réflexion de Gotham sur WhatsApp, 06 12 424 424. Tu viens de l'évoquer mais c'est passé un peu inaperçu. Il nous dit: je suis étonné que vous ne fassiez pas le parallèle avec Danemark 92, même décontraction, même cote d'amour.
Tu peux faire une Danemark après moi.
C'est vrai que le Danemark était pétri de talent, était arrivé dernière minute en remplacement de la Yougoslavie.
Alors là on fait un vrai raccourci régional pour le
bien coup. Sûr non, non, mais il parle de la décontraction. Et c'est vrai que cette équipe de danoise n'avait aucune pression alors qu'ils étaient très forts réellement.
Culturellement, ça j'avoue, je ne le sais pas, qui les relie vers cette décontraction. Oui,
le fait de ne pas être attendu aussi.
Oui, c'est ça.
Moi, je
pense très souvent que j'accepte éventuellement le cliché culturel que dans le Sud, on est beaucoup plus dans l'émotion et l'émotivité parfois mal placée. Où on met un petit peu trop de bides, de larmes, on en parlait pour les Argentins.
Nous, on est comme ça un peu aussi, les Français.
Cette équipe de France-là, elle m'a l'air assez.
Moins,
assez solide, mais je parle plus au sud et tout. En revanche. Les Danois, les Norvégiens et tout, je sais pas pourquoi, c'est peut-être un cliché, je sais pas, mais je les vois toujours.
En tout cas, attention, le match contre le Brésil est très froid,
aux événements.
Footballistiquement.
Voilà, c'est ça. C'est
quand
ça,
tu vois, vous avez vu le but d'Alland, il est déconnecté jusqu'au centre, et il se réveille, il y a but, les deux buts sont très très froids, quoi.
Et alors, cette équipe, spécifiquement celle-ci, celle de Solbakken, elle a une histoire, qui explique cette forme, cette puissance, parce qu'on l'a pas évoqué, mais ils ont roulé sur leur qualif, C'est une vraie équipe qui se connaît depuis longtemps et qui fonctionne.
A vu 2-3 matchs.
Et pour le coup, Aurélien, tu peux nous raconter comment cette équipe a été construite?
C'est pas du tout du hasard, parce que déjà c'est une équipe, la Norvège, qui a pas participé au Mondial depuis 98. Ils étaient dans le trou, clairement. C'était le petit frère, même pas, de la Suède. Et au début des années 2000, déjà la Fédé a construit des terrains couverts. Ça paraît factice, mais en fait, ça fait passer le foot d'un sport d'été à un sport que tu peux pratiquer toute l'année. Et dans les années 2010, ils ont formé massivement des coachs. Ils ont développé beaucoup la connaissance du football auprès des jeunes. Et Håkon Grøtland, c'est le gars qui a découvert Martin Ødegaard dans sa petite ville, et il est devenu patron du développement des jeunes joueurs à la Fédé norvégienne. Et en fait, il a mis en place l'école de l'équipe nationale. T'as 10% des jeunes footballeurs norvégiens qui intègrent toutes les semaines cette école de l'équipe nationale. Ils restent dans leur club formateur jusqu'à 14-15 ans. Ensuite, les meilleurs intègrent les académies des clubs professionnels, notamment Bodø/Glimt, qui a investi aussi massivement dès les années 2010. Mais jusqu'à 12 ans, il n'y a aucune pression, aucune sélection. Tous les gamins jouent sans jamais être trié. Et ça, c'est important. Håkan Grøtland, on peut l'écouter d'ailleurs, il insiste sur ce plaisir de jouer qui est en fait le ciment de ces Norvégiens-là.
C'est beaucoup plus important pour nous de développer l'amour du jeu, du foot à nos petits plutôt que de vouloir créer des stars. Notre philosophie comporte trois piliers, l'entraînement, le jeu et le leadership. Il faut toujours s'entraîner intelligemment, des situations de match où il faut penser au temps, à l'espace. Chaque exercice a pour but d'avoir des joueurs malins.
Et à part le gardien de l'Islande, en fait, tous les joueurs, ils ont moins de 28 ans et c'est tous des petits frères de Martin Ødegaard, en fait. Ils ont tous été formés de cette manière-là. Et ça, c'est ultra important. Aussi, l'état d'esprit, Håkon Grøtland, il me disait en se marrant, ce dont je suis le plus fier, en fait, déjà, il rêvait jamais d'être en quart de finale de la Coupe du Monde avec cette génération-là, mais ce dont il est le plus fier, c'est d'avoir des mecs intelligents, pas des trous du cul aux égos surdimensionnés, y compris Haaland, y compris Ødegaard. Parce que Haaland, par exemple, à 14-15 ans, il m'a dit, mais personne l'avait remarqué, c'était le mec banal au possible, même s'il faisait partie des sélections des plus talentueux du pays malgré tout, mais avec les meilleurs de son pays, il dépassait pas du tout. Et puis, on a laissé le temps à ces gars-là de se développer et ils ont une génération fantastique, parce qu'à part les deux superstars, ils jouent tous en Bundesliga, en première ligue.
On en parlait avec les fédérations africaines, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Quand tu vois que cette année avec Bodoglin, même s'il n'y a que trois joueurs de Bodoglin dans cette liste là
qui ont intégré la sélection suite à ce parcours, hein. Il n'y en avait aucun avant,
exactement,
hein.
Il y a beaucoup de joueurs qui jouent à l'étranger dans cette liste là mais dans cette équipe de Bodoglin, il y a 9 Norvégiens sur 11 sur la compo de départ. Et quand tu vois ce qu'ils font en Europe sur les dernières années, et la santé de ce pays dans cette Coupe du Monde et dans ces qualifications où on reprochait énormément à Erling Haaland et cette génération de ne pas faire le dernier Euro notamment, ça montre que le travail paye. Et je trouve ça quand même hyper intéressant.
Et d'ailleurs, il n'y a pas d'obligation.
Répète-nous sur l'âge, là, il y a un seul joueur de plus de 28 ans dans cette équipe.
Ouais, c'est le gardien, en fait, c'est Nyland, qui a 35 ans, sinon tous les autres. Ils ont été formés. En plus, ouais, il a plus de club après son départ de Séville sans club, ouais, sans contrat. Et donc après, c'est ultra intéressant. Et il y a aussi un autre truc,
le mec qui est béton dans une compétition
nationale,
qui deux mois après, une fois qu'il rentre dans
l'ordinaire,
il ne vaut
pas
rien.
On va voir ce soir s'il a le même niveau que face au Brésil. Nyland, oui. Parce qu'on parle beaucoup d'Haaland, mais
c'est jusqu'ici un des meilleurs gardiens du tournoi.
Ça peut te faire du bien.
Le coup d'envoi, c'est dans une demi-heure pile. Aurélien Tiercin, donc à Miami au Hard Rock Stadium. Et on va parler des Anglais dans un instant. Julien Laurence nous rejoint. Les Anglais qui ont pris l'habitude des sommets, hein, puisque je vous rappelle qu'ils ont fait 2 finales d'Euro, perdu au tir au but. Ils sont tout prêts, les Anglais. Est-ce que c'est pour cette fois-ci? On va en parler tout de suite.
Finale d'Euro au Pénon.
Deux même.
Ah, je me souviens pas.
Allez, à tout de suite.
RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Pierre Dorian.
L'afterfoot intégrale Coupe du Monde, le coup d'envoi de Norvège-Angleterre, c'est dans 28 minutes. On va parier sur cette rencontre dans quelques instants. Mais d'abord, on va parler des Anglais avec toujours Daniel Riolo et Walid Acherchour. En direct de Miami, c'est Aurélien Tiercin qui va commenter cette rencontre. Et bien sûr, je vous le rappelle, la nuit de l'after va être fantastique puisqu'à 3h du matin, nous avons Argentine-Suisse. On a vraiment une très belle soirée de foot à vivre sur RMC. Julien Laurence, notre spécialiste du foot anglais, est avec nous. Salut Julien.
Salut Pierre, salut à tous.
Julien, on a besoin de toi lundi soir. Hein. Réserve ta soirée, mon vieux.
Ah, je suis là, c'est déjà fait. C'est déjà préparé.
Alors, pour les tables.
Bon, alors avant la soirée de lundi,
je sais pas s'il est au courant ou pas du jeu des tables, mais on a besoin de toi lundi.
On va parler de la compo de Thomas Tuchel. Rappelle-nous le choix de Tuchel qui fait beaucoup causer, Aurélien.
Oui, avec Noni Madueke qui est titulaire à droite de l'attaque, aux côtés de Gordon, Bellingham et Kane. Il y a aussi la défense, puisque Rhys James est peut-être encore un peu court, donc on va mettre Ezri Konsa sur le côté droit et John Stones aux côtés de Marc Guéhi et Nico Reilly. Et d'ailleurs, on peut remarquer qu'il y a 3 défenseurs de Manchester City sur les 4 pour peut-être faire face aussi à l'avancement de Manchester City et Erling Haaland.
Ah oui, peut-être. Je sais pas si c'est dans l'esprit de Tuchel, mais pourquoi pas.
On te voit à l'entraînement, on voit te maîtriser.
Tu sais,
j'ai trop cru à cette théorie. Milan.
Désiré Doué a priori a été choisi face à Hakimi parce qu'il rentre sur son sur le côté où Hakimi a le plus de difficultés à défendre. Et donc là, ça peut exister. Oui,
c'est parce qu'il joue dans le
mais ces aspects tactiques là, tu peux mieux les maîtriser quand tu te confrontes à l'entraînement.
Là, il joue dans le même club aussi.
Alors sur le choix de Thomas Tuchel, Julien, qu'est-ce qu'il se dit en Angleterre et qu'est-ce que t'en penses toi?
Oui, alors on dit que Saka n'est pas encore tout à fait à 100% et pour un match pareil, c'est compliqué de l'aligner, qu'il peut être très efficace.
Est-ce qu'on a perdu Julien ou quoi? Ouais, on a perdu Julien. Bon,
problème de connexion classique.
On va le rappeler et on l'aura dans un instant. Tiens, juste sur l'habitude des Anglais à disputer les derniers matchs d'une grande compétition, on va écouter Harry Kane qu'on a parlé hier en conférence de presse. Harry Kane.
Ah, comment ça, on n'a pas Harry Kane?
Bien sûr qu'on a Harry Kane.
Problème de connexion avec Harry Kane aussi.
C'est bon.
On sort de deux finales dans les trois derniers tournois majeurs, d'une demi et d'un quart dans les deux dernières Coupes du Monde. Alors c'est encore un quart. On a des joueurs qui sont habitués à ces grands matchs, ces grands moments. On est mieux préparé pour ces situations. On sait qu'il faudra être à notre top niveau pour ces quarts, demi, finales de ce niveau. Mais connaître ça, ça aide à être plus relax pour demain.
Ça compte quand même, hein, ce genre de choses. Ce n'est pas ultime comme argument.
Mais l'habitude d'être toujours loin dans les compétitions, oui, avec les joueurs qu'ils ont, il manquerait plus que ça.
Ouais, mais tu sais, la génération des Lampard et compagnie, ils avaient du talent aussi, mais ils avaient ce complexe, hein, quand même. Hein.
Oui, enfin après, si tu regardes la façon dont l'équipe se faisait sortir à chaque fois, entre l'Allemagne en 2010, les séances de pénaux tout le temps jouées à l'envers, il y a eu beaucoup de scénarios durs. Bizarre. Pour les Anglais. Les qualités, ils les ont toujours eues. Le problème, c'est que, ok, t'as l'habitude d'être là, comme dit Kane, oui, on est tout le temps top 8, peut-être même top 4, si gagne ça, mais c'est que maintenant, ça fait une vie qu'ils ne font plus rien basculer, qu'ils n'y arrivent pas. Et que ça, c'est une vraie anomalie dans l'histoire du football. Avec ce championnat dominant, avec la qualité de leurs joueurs, que depuis 66, il n'y ait jamais rien eu qui tombe, et le dernier drame ayant été la finale 2021 à la maison, pour l'instant, je sais pas si ça leur met un complexe ou quoi dans la tronche au moment des matchs fatidiques, mais ça se termine toujours de façon dramatique. Époque Beckham, c'était dramatique. Les pénaux qui tournaient pas bien, le Lampard de la génération là, c'était 2010, le vrai faux but contre l'Allemagne. Il y a toujours un truc de travers. Les pénaux contre l'Allemagne en 90, c'était peut-être leur plus belle équipe, celle de 90 d'ailleurs, quand ils
ont fait le coup de pénaux contre les Allemands en 2002. Alors, on a retrouvé Julien Laurence. Tiens, avant de nous parler du choix de Tourelle, est-ce que les Anglais ont toujours ce complexe ou pas dont parle Daniel là, Julien?
Je ne sais pas si c'est complexe, mais en tout cas, je pense que mentalement, ouais, ils ont quelques soucis. En 2022, contre la France en quart de finale, le match, ils le perdent dans le mental. Ils ne le perdent pas sur le terrain. C'est sûrement la meilleure équipe des deux.
Le Kane dans les nuages, j'en reviens encore toujours pas. Quoi.
Mais même pas que celui-là, même pas que ça, Daniel, parce que même en seconde période, ils sont au-dessus et pourtant, il a manqué quelque chose. Donc, oui, je suis d'accord. Alors, je sais pas si on peut appeler ça un complexe ou pas, mais en tout cas, mentalement, ils ont un moment quand ça s'élève, surtout en Coupe du Monde, parce qu'à l'Euro, c'est un petit peu différent, mais en Coupe du Monde, ils ont clairement eu des soucis et peut-être que Tuchel peut changer ça ou pas d'ailleurs. Et encore une fois, on revient sur la victoire du Mexique, par exemple, pour les huitièmes de finale. Je pense que psychologiquement, elle leur a fait beaucoup de bien, cette victoire-là, même si dans le contenu du match,
pour eux,
avec
le
ballon, c'est moins bon.
Que le Mexique en face.
Oui, mais quand même, au Mexique, Daniel aussi.
Ouais, c'est vrai.
C'est quoi d'ailleurs la confiance des supporters? Qu'est-ce qui se dit en Angleterre de cette équipe de Thomas Tuchel?
Alors eux, ils y croient, mais ils sont pas non plus super confiants. C'est normal, tu viens pas jusqu'ici pour pas y croire. Et c'est quand même une équipe qui a du talent, mais c'est aussi une équipe qui, pour l'instant, en tout cas, a montré des faiblesses et surtout des limites dans ce qu'elle peut faire et avec le ballon, dans ce qu'elle a pu faire défensivement, par exemple. On en revient à reparler de ça, mais le Mexique, Raúl Jiménez, il a 35 ans, et pourtant il y a des moments où il a mis le feu dans une défense qui aurait dû être bien plus solide que ce qu'on a vu au Stade Azteca, par exemple. Donc je pense qu'ils sont assez confiants dans le sens où sur un jour, ils peuvent battre n'importe qui, j'en suis convaincu aussi, mais ça reste une équipe qui, globalement, dans son ensemble, collectivement, est moins forte, par exemple, qu'une équipe de France, même qu'une équipe d'Espagne, et qu'aujourd'hui, elle va avoir des soucis. Mais par exemple, c'est marrant, mais en Angleterre, on parle beaucoup plus de Kane qui joue au golf avec Trump que ce que Kane peut faire aujourd'hui contre une défense norvégienne qui est quand même, encore une fois, elle aussi limitée.
C'est vrai que la sortie de Kane aujourd'hui, mais on espère un meilleur match, on l'espère meilleur sur le terrain. Mais pour revenir sur ce que disait Julien, moi par contre, je répète, hein, mais moi je valorise énormément ce qu'ils ont fait contre le Mexique, notamment sur la fin de match. Pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de sélections qui seraient déjà à l'aéroport dans ce contexte-là, Stade Azteca à 10 contre 11, après le penalty en plus qui était pour moi un peu généreux pour les Mexicains. Il y avait tout pour prendre la porte avec une équipe mexicaine qui a
survolté, qui était
survoltée, pays hôte. Moi, je trouve que tu sors grandi en tant que groupe et en tant qu'équipe, et que c'est peut-être pas palpable. Enfin, ça reste subjectif, mais moi, je sens deux équipes en mission et deux joueurs en mission dans cette Coupe du Monde. C'est l'équipe de France de Kylian Mbappé et c'est l'Angleterre de Bellingham.
Je peux dire la même chose de l'Argentine.
Hein. Non, mais animée d'une autre chose. L'Argentine est animée, quoi qu'il arrive, ils sont animés. Ils sont toujours animés, ils seront toujours animés. Mais là, je sens que moi, la France et l'Angleterre, pour des raisons différentes, il y a un truc qui se dégage dans leur match où, quoi qu'il arrive, je les sens différents, je sens une énergie différente.
Et après, l'Angleterre, malgré les problèmes défensifs dont parle Julien, c'est aussi une équipe qui progresse dans cette compétition. Hein.
Ah oui,
genre, ils ont produit contre le Mexique.
Oui, oui.
On s'y attendait pas forcément.
Personnalité. Hein. Ouais.
Et puis ils ont un côté froid qu'on évoquait avec la Norvège. C'est vrai que ce soir il va falloir peut-être se mettre une petite couverture hein, pour les défenseurs. Mais là,
moi, je la trouve pas si froide cette équipe anglaise.
Les 25 premières minutes du Mexique qui sont qui termine avec un doublé de Bellingham, je trouve que le 2-0, il est très bien payé pour les Anglais et qu'il y a une efficacité
sur les trois buts.
Contre le cours du jeu,
une équipe clinique, mais c'est ça qu'elle fait.
C'est ça contre le Mexique.
Je les ai trouvés très
forts. Qui s'est révolté aussi, qui s'est survolté.
Oui, tu vois, mais contre la RDC, ils sont pas froids parce qu'ils ont beaucoup de situations. Ils tombent sur un passi sur la première mi-temps, ça doit faire 2-0 ou 2-1 pour l'Angleterre. Ils ont des occasions. Contre le Mexique, je les vois chahuter, je les vois chahuter, et clairement, même sur le 2-1, quand il y a 2-1 et qu'il y a le carton rouge, le troisième but, sur la situation qui amène le pénalty du 3-1, je trouve qu'ils ont réussi à maximiser dans un match bourbier des situations, et à l'image des individualités, Bellingham, Gordon et Harry Kane.
Et ce qui est étonnant, c'est qu'il change,
hein.
Il change encore sa compo, Tourelle, ce soir, Julien, parce qu'on a évoqué Madueke, mais son arrière-droit aussi, ça doit faire le troisième ou le quatrième qui joue là.
Ouais, James c'est pas prêt. Alors James c'est pas prêt. En revanche, il pensait que Nusa débuterait à gauche pour la Norvège et que tu pouvais peut-être, c'était un risque à prendre de faire débuter Rich James contre eux. On va dire, nous ça reste un jeune joueur, hein. C'est pas non plus classe mondiale encore, mais en tout cas il a de la vitesse,
il percute qualité,
très bien, ouais. Il est fort techniquement, tout ça. Maintenant que tu sais que c'est l'échelle de l'Europe qui va débuter sur ce côté gauche-là, peut-être que Rich James, finalement, t'aurais pu le mettre. C'était trop tard. Ce sera contre ça. Tu changes donc ta charnière et ton arrière-droit. Donc, d'un seul coup, ça fait quand même des changements aussi. Même si tu l'as très bien dit, Pierrot, c'est trois défenseurs de City contre Haaland. C'est même pas contre Haaland forcément, mais qui se connaissent très bien, qui ont l'habitude de jouer ensemble, même si Stones n'a pas beaucoup joué. Mais voilà, c'est dans l'esprit, c'est ça. Moi, Stones, s'il est fit, Tuchel avait toujours dit, si Stones est prêt physiquement, pour moi, il est titulaire. Tourelle avait toujours dit ça, il adore Stones,
quand il a mimé la blessure, après il a dansé, il était comme
voilà, à l'épaule là.
Il était comme un dingue, il s'est dit attends, si Stones n'est pas là, ça va être compliqué.
Après, je sais pas si ça peut durer 90 minutes par exemple pour Stones. Et je sais pas si son manque de compétition un petit peu dans ce tournoi là, dans cette Coupe du Monde, peut le gêner un peu physiquement contre Haaland, parce que si t'es Haaland aujourd'hui, tu joues côté Stone, tu joues pas côté Gay, ça c'est sûr.
Merci beaucoup Julien d'être venu nous éclairer sur l'équipe de Thomas Tuchel. Le coup d'envoi c'est dans 18 minutes, dans quelques instants Gilbert Bribois pour les hymnes, bien sûr, et le coup d'envoi, et puis on va parier sur ce match dans un instant.
Ah, il est temps de faire un peu d'oseille
juste avant ça. Aurélien, ça y est, le stade est plein là à Miami.
Ouais, ça y est. Bon, les Anglais, ils ont rétabli le problème. Ils sont beaucoup plus nombreux que les Norvégiens.
Ouais,
ils ont
envahi
le stade. Non. On attendait. Alors, on craignait des orages, mais c'est nuageux. Il fait 32, 33. D'aucuns diraient qu'il y a une vague de chaleur, mais je pense que par rapport à ce que vous connaissez en France, c'est tranquille encore. Ça va. Et non, certains parlent de vague de chaleur en Floride. Bon, moi, je trouve que ça va. On est au bord de la plage, on a les palmiers, tout va bien. Bon, là, il n'y a pas de soleil. Et les Anglais, ils sont chauds. Il y avait Ellie Goulding, je crois, parce que je suis pas spécialiste de la pop anglaise, mais je crois que je l'ai reconnu. Et donc, voilà, on va se projeter tranquillement vers le coup d'envoi 17h, ici hors local.
Et nous, on parie sur RMC.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Avec Christophe Lenné. Salut Christophe.
Bonsoir Pierrot, Walid, Daniel, Aurel. Bonsoir à tous.
Allez, on y va. Là.
Les Anglais sont-ils favoris de ce quart de finale?
Oui, monsieur. 1,82 la victoire des Tri Lions.
Wow.
3,90 le match nul et la prolongation.
4 la victoire de la Norvège.
4 la Norvège sur ce match-là.
Sur ce tiers match.
C'est cote.
Bah c'est Wina, c'est notre partenaire. Ah. Et moi, je vois une grosse surprise. Je vois la victoire de la Norvège. Pour moi, la Norvège,
dans le temps, dans les 90 minutes.
Dans les 90 minutes. La Norvège, dans le temps réglementaire, c'est 3,5. C'est cadeau dans le temps réglementaire. Norvège plus Hollande, c'est coté à 5. Et puis la kryptonite des Anglais, la Norvège au tir au but à 11.
Et je prends le match nul.
À 3,90.
C'est quoi t'as dit les pénaux?
Les pénaux 11.
Un péno de n'importe quelle équipe.
Non, l'Angleterre au péno, si ça vaut.
L'Angleterre au péno, ou la Norvège au péno.
Non, parce qu'il y a peut-être un pari à faire sur les buts sur penalty, Kane sur penalty ou Haaland sur penalty. Non, mais là on va changer une belle cote.
Schilderup buteur.
Schilderup buteur. Ça y est, t'as l'inspiration.
J'ai une vision.
Ok, pourquoi pas. Si tu me calcules vite fait, Kane et Erling Haaland marquent sur penalty, la cote elle est magnifique et ça va arriver ce soir.
Ça va être compliqué. Je vais te dire ça tout à l'heure.
Mais là tu l'as mis dans un.
Tout c'est rien, ensemble on se connaît bien avec tout
le monde. On me met dans la sauce.
c'est vrai que celle-là, elle n'est pas simple à calculer. Hein. Donc le but de Schilderup pour Walid. Merci.
Avec plaisir.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Allez, c'est parti pour la grande soirée de live. La nuit de l'after vous emmène jusqu'au petit matin puisque je vous rappelle le programme. Dans 15 minutes, coup d'envoi de Norvège-Angleterre à Miami. Et ensuite à 3h du matin, Argentine-Suisse. Donc il y a du direct au moins jusqu'à 5h. Peut-être plus s'il y a une prolongation. Et bien sûr, avec l'équipe de l'After, vous allez vous régaler autour de Gilbert Bribois et de nos envoyés spéciaux. Coup d'envoi dans 15 minutes. Restez bien sur RMC.
RMC, l'After Foot, intégrale Coupe du Monde.